7h, 9h.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Êtes-vous bien réveillé? Vous êtes encore dans votre lit? Vous êtes déjà dans la cuisine? Vous êtes peut-être parti ou tout simplement vous dormez? Et vous n'en avez rien à fiche de ce que je vais vous dire. Nous sommes le jeudi 14 février. Oui, c'est la Saint-Valentin, mais l'actualité continue. Avec la fin de l'histoire, c'est ce que titre ce matin le journal Sud-Ouest. Alain Juppé quitte son fauteuil de maire de Bordeaux pour rejoindre le Conseil constitutionnel. C'est un choix que personne n'attendait. On va y revenir longuement tout au long de la matinale, dans nos flashs, dans nos éditions, notamment avec notre correspondant à Bordeaux, Stéphane Place. Et si un mouchard chinois se trouvait en ce moment même dans votre poche ? Ce n'est pas un fantasme, ce n'est pas un film de science-fiction ou d'espionnage. C'est une option très sérieuse. Le sujet inquiète les Américains, ils l'ont dit, ils l'ont exprimé. Mais aussi les Français en cause. Le géant chinois de la téléphonie mobile, vous le connaissez, Huawei, soupçonné d'espionnage. La rédaction a enquêté. Dossier brûlant à ne pas manquer à 7h20 dans Europe 1, va plus loin. Et puis c'est le jour incontournable, on l'a dit, de tous les amoureux. Vous avez embrassé celui ou celle qui est à vos côtés? Allez, dites-lui, c'est le moment. En musique. Eh les amis en régie, si on balance du Johnny alors qu'on n'est pas encore réveillé, elle commencera mal la Saint-Valentin, parce que là vous envoyez du lourd. Bref, dites-le comme vous voulez, mais dites-le, très heureux d'être à vos côtés jusqu'à 9h ce matin. Bon réveil.
On vous aime et on vous souhaite une belle journée à l'écoute d'Europe 1. Bon réveil, il est 7h. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nico Saliagas.
Et on l'aime, Hélène Zelani. Bonjour Hélène.
Bonjour Nico, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
On l'apprend ce matin, Airbus signe l'arrêt de mort de l'A380. Dernière livraison dans 2 ans. Les explications dans un instant d'Axel de Tarlé. La sanction pour Christophe Détinger, l'ex-boxeur qui avait frappé des gendarmes. 1 an de prison ferme, mais une peine aménageable qui lui permettra de rester libre la journée. Et puis en cette Saint-Valentin, c'est plutôt de rupture qu'il est question en librairie. On ne compte plus les livres sur ce thème en cette rentrée littéraire.
Europe 1.
C'était hier ou presque, on se souvient du tout premier vol commercial de l'A380 il y a 12 ans et ce matin, le coup près, Airbus annonce la fin de la production de son gros porteur capable de transporter 500 à 650 passagers sur 2 étages. Comment on explique cette décision, Axel de Tarlé ?
Mais le coup de grâce est venu d'Emirates qui, après Qantas Airways au début du mois de février, dit ne plus vouloir acheter d'A380. Emirates, c'était la compagnie qui achetait des A380. Mais voilà, elle trouve cet avion trop gros. Elle préfère des plus petits avions parce que donc l'A380, vous l'avez dit, c'est l'avion le plus gros du monde. C'est la fierté des Européens. Et le bonheur des passagers, hein. C'est un avion
silencieux à l'intérieur.
Ouais. Silencieux, une vue imprenable sur le ciel depuis le deuxième étage, parce que c'est un avion, c'est le seul au monde, à 2 étages sur tout le long de l'avion. Donc très apprécié des passagers, mais très mal aimé des compagnies, parce que justement, trop gros. Aujourd'hui, la mode est aux petits avions, capables de faire des vols directs, voyez, sans escale, sans changement, du point à point rapide. Donc trop gros et trop cher. Cet avion coûte un exemplaire 440 millions de dollars. Pour vous donner une image, un A380, c'est quasiment le prix du viaduc de Millau. Donc, ouais. Stop, Airbus arrête, faute de commande, dernière livraison 2021, après avoir investi quand même dans cet avion plus de 10 milliards d'euros, donc en plus de pertes, en pure perte. Donc malheureusement, l'A380 va rejoindre le Concorde, hein, c'est-à-dire prouesse technologique, fascination du public, mais un échec commercial.
Axel de Tarlé.
Axel qu'on retrouvera à 7h43 tout à l'heure pour le Zoom Echo. Le reste de l'actualité, 1 an de prison ferme pour le boxeur Christophe Détinger.
Oui, il avait violemment frappé 2 gendarmes lors d'une manifestation de gilets jaunes le 5 janvier dernier. Les images ont encore tourné en boucle hier. Cette peine, il va l'effectuer en semi-liberté au Vernuccio.
Oui, cela veut dire qu'il passera la nuit en prison et la journée au travail pendant 1 an. Un aménagement de peine qui s'explique par son casier judiciaire vierge et son mea culpa. J'ai voulu réparer une injustice et j'en ai créé une autre, regrette Christophe Détinger. À l'extérieur, les proches de l'ancien boxeur laissent éclater leur joie. Ils redoutaient bien pire, jusqu'à 7 ans de prison. Son avocat, Maître Viguier, est plus mesuré.
C'est une peine très lourde. Si vous me demandez de considérer qu'il a été jugé comme l'aurait été n'importe quel autre gilet jaune qui aurait porté des coups à sa place, sans cette médiatisation, sans qu'il fût un ancien champion de France poids lourd de boxe, je pense que la peine aurait été moins lourde, oui.
Justice a été rendue, tweet alors Christophe Castaner à peine la sanction prononcée. Satisfaction aussi du côté de l'avocat des parties civiles, Maître Morel.
C'est une décision équilibrée qui a du sens. Les victimes sont reconnues comme telles. Monsieur Détinger est interdit de manifestation dans Paris pendant 6 mois. Donc nous sommes très satisfaits ce soir.
40 jours après les faits, l'un des gendarmes n'a toujours pas repris le travail. Christophe Détinger devra d'ailleurs verser 5 000 euros d'indemnité aux 2 victimes.
Aude Vernuccio, et vous vous souvenez qu'en réaction à la cagnotte cagnotte de soutien à Christophe Détinger, une autre cagnotte avait été lancée pour les forces de l'ordre et les pompiers blessés. Eh bien, cette somme de près d'1,5 million d'euros sera remise ce matin à l'Amicale de la Police, une cérémonie aux Invalides en présence de Christophe Castaner. Le compte est loin d'être bon. Le convoyeur de fonds qui avait disparu avec 3 millions d'euros à Aubervilliers a certes été arrêté, mais plus de la moitié de la somme reste introuvable.
Un repas, il est 7h04.
Alain Juppé quitte sa ville adorée pour le Conseil constitutionnel.
Oui, une annonce surprise hier du maire de Bordeaux. C'est Richard Ferrand, président de l'Assemblée, qui lui a demandé de rejoindre les Sages. À 73 ans, Alain Juppé tourne donc une page de sa longue carrière politique, Aurélie Herbemont.
En arrivant chez les Sages, Alain Juppé change de statut. Il le sait, il devra entrer dans une période de réserve. Réserve de 9 ans, son bail au Conseil constitutionnel. C'est une institution où on ne s'exprime plus sur la vie politique, explique un de ses compagnons de route. Impossible effectivement d'être dans l'arène du débat politique quotidien, alors qu'on voyait Alain Juppé à nouveau candidat à Bordeaux en 2020 et surtout en soutien de la liste macroniste aux élections européennes de mai. Mais il y aura Jean-Pierre Raffarin. Le prolongement d'Alain Juppé s'amuse une fidèle. Tout le monde sait où sont les juppéistes, abonde un autre. Alain Juppé qui tourne une page de sa vie politique après avoir été Premier ministre, plusieurs fois ministre des Affaires étrangères, deux fois, en passant par le budget ou la défense, jusqu'à l'échec de la primaire face à François Fillon en 2016, après avoir été favori de la présidentielle pendant 2 ans. Il sort par la grande porte, confie un de ses lieutenants. Je suis heureux pour lui.
Aurélie Herbemont, et tout à l'heure à 11h, Alain Juppé prendra la parole à Bordeaux pour expliquer les raisons de son choix. Une petite phrase qui ne passe pas inaperçue. Édouard Philippe, invité hier soir de LCI face à 10 Français, a pris ses distances avec la fameuse expression d'Emmanuel Macron, traverser la rue pour trouver un travail. Vous avez peut-être remarqué que moi, j'essaie toujours de faire très attention à la façon dont je m'exprime, a dit le Premier ministre.
Europe 1.
Dans un instant, la suite du journal avec Hélène Zélani et cette révoltante affaire qui secoue une maison de retraite à Arcueil, dans le Val-de-Marne. Une vieille dame de 98 ans a été giflée et insultée par un aide-soignant. On vous dit tout juste après ça. Tout de suite et bon réveil.
Il est 7h08, votre matinale info, Nikos Aliagas.
La suite du journal avec Hélène Zélani, une scène insoutenable qui s'est déroulée dans la chambre d'une dame de 98 ans, pensionnaire d'un EHPAD, ça s'est passé à Arcueil.
Oui, la famille qui avait des doutes a caché une caméra et a découvert des images d'une violence inouïe. Un aide-soignant la traîne par les pieds, par les cheveux, alors qu'elle demande pitié. Il l'insulte et va jusqu'à la gifler. La famille a porté plainte. L'homme salarié de la maison de retraite du Grand Cèdre depuis 9 ans est en garde à vue ce matin. Évidemment, cette affaire angoisse au plus haut point les autres familles. Reportage à Arcueil dans le Val-de-Marne, Yasmina Katou.
Le choc, la stupeur, voilà le ressenti d'Evelyne à la découverte des faits. Elle a placé son mari dans cet établissement pour cause d'Alzheimer. Elle l'avoue, ce sont ses propres mots. Lorsqu'elle abandonne son mari dans sa chambre, une angoisse l'envahit.
Il y a des fois, il m'a dit « j'ai mal à l'épaule, c'est un gros monsieur qui m'a fait mal ». Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce sont des hallucinations? Je ne saurais jamais. Quand vous mangez à 1 mètre de la table et que vous avez tout le repas qui tombe par terre, c'est pas grave, c'est tombé. Voilà ce qu'on vous dit. Mais qu'est-ce qu'il va manger? Mais ce sont des êtres humains, ce ne sont pas des bêtes.
C'en est trop pour Evelyne qui pense déplacer son mari ailleurs. Mais ici, tous ne sont pas alarmistes. Muriel vient voir sa mère 2 fois par semaine. Elle préfère se rassurer et penser que ce n'est qu'un acte isolé.
Il faut savoir déléguer, il faut savoir faire confiance. Si je ne l'ai pas c'est là, c'est parce que vraiment celui-ci avait vraiment bonne réputation. Il ne faut pas faire non plus d'un cas une généralité.
Pour tenter de rassurer les familles, la direction de l'établissement les recevra cet après-midi à 14h30.
Yasmina Katou dans le Val-de-Marne pour Europe 1. À l'Assemblée, l'examen du projet de loi sur l'école de la confiance se poursuit. Cette nuit, les députés ont adopté le principe d'une obligation de formation pour les jeunes de 16 à 18 ans. Pour Jean-Michel Blanquer, il s'agit de ne laisser aucun jeune au bord de la route.
Alors évidemment, Saint-Valentin oblige, on parle d'amour ce matin, mais aussi de désamour.
Et oui, quand on s'aime, parfois aussi on se quitte. Et les histoires de rupture, elles inspirent beaucoup les écrivains en cette rentrée littéraire, Nicolas Carreau.
Et oui, grosse ambiance dans les librairies en ce moment. Les romans tristes font partie des meilleures ventes. Le nouveau roman de Yann Wax, par exemple, au titre évocateur. Rompre, il y raconte sa rupture avec Emmanuel, parti pour un prof de yoga. Dans Jeter oublié en chemin, l'écrivain Pierre-Louis Basse marche pour apaiser sa douleur. David Fuenquinos publie la semaine prochaine Deux sœurs, cette fois c'est une femme quittée par un homme. Chacun de ses livres évoque la tristesse de la séparation. La bonne nouvelle quand même, c'est que ce sont aussi de belles histoires d'amour, selon l'écrivain Nicolas Rey.
C'est en vivant sa déchéance aussi qu'on réalise qu'on a vécu une seule, belle, unique et universelle histoire d'amour. C'est en vivant tout ça.
Justement, dans « Lettre à Joséphine », son roman inspiré de sa vie, Nicolas Rey écrit tous les soirs à sa bien-aimée.
Ça me permettait d'écrire sur elle le soir, donc de me rapprocher d'elle, d'être un peu à côté d'elle, et c'est tout ce que je demandais, tellement elle me manquait en fait.
L'écriture comme remède à la rupture, donc pour Nicolas Rey, qui cite et médite cette phrase de Pierre Desproges, « J'aime les histoires d'amour qui finissent mal, ce sont celles qui ressemblent le plus à la vie. »
En général. Pas toujours.
Merci Nicolas Caro, vous êtes l'homme des livres.
Et en particulier, ça fait plaisir d'être avec Hélène Zélani dès 7h du matin, puisqu'on parle aussi un mot de cinéma, la comédie qui cartonne, un film européen, Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ? Près d'1 500 000 nouvelles entrées cette semaine. Au total, 3 600 000 entrées, ça fait du bien. En 15 jours, les Français ont plébiscité ce film. Les Français veulent aussi rire et être informés par vous, Hélène, tous les matins à partir de 7h. Merci beaucoup.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
Il est 7h11, l'heure de retrouver Martin Fenot qui se trouve comme chaque jour, Nico, sur le terrain.
Vous êtes où, Martin, ce matin ?
Alors, je ne vais pas parler trop fort, Nico, ce matin. Je suis dans un lieu sacré. Vous entendez, ça résonne. Je me trouve sous les voûtes en pierre blanche de l'église Saint-André à Reims. Parce que dans quelques heures, ici même, des couples vont fêter la Saint-Valentin. Ils vont dîner ici, sous les vitraux. C'est le diacre qui organise. C'est inédit. Il a placé des tables autour de la nef. Il a aussi allumé des chaufferettes parce qu'il fait très froid dans cette église.
J'imagine.
Annoncé à la fin de la messe, ne venez pas en dos nu, mesdames, parce qu'il va faire un petit peu frais. On a pris des tables hautes, avec des chaises hautes, pour qu'ils ne soient pas en contact avec le sol. Ça permet de s'isoler du froid. Avant de commencer ça, on va se mettre devant les télévisions qui sont dans l'église et on va regarder un message du pape. Il parle du couple, il parle de l'amour avec des mots magiques. Ils vont avoir un petit questionnaire devant eux. Il y a une question sur le pardon, j'espère qu'il n'y aura pas de dispute. Ça a du sens quand même qu'on célèbre l'amour dans une église.
Je regarde les photos que vous avez postées à Martin Fenot sur Twitter avec le hashtag Europe 1. C'est vrai que c'est impressionnant, mais il y aura un repas, un vrai repas comme dans un restaurant ou pas ?
Exactement, un chef étoilé va cuisiner. Le dîner coûte 15 euros, mais c'est surtout le lieu, évidemment, qui attire Marthe et Valentin, deux jeunes fiancés.
Je me dis, mais trop beau, quoi. C'est génial. Vivre cette fête de l'amour avec mon amoureux dans l'église, tout est réuni. Quand on va nous dire « Ah ouais, toi, t'es Saint-Valentin », on en aura vécu plein, mais celle-là, je pense qu'on s'en souviendra.
Est-ce qu'il y a une dimension spirituelle quand même dans cette démarche gastronomique et amoureuse,
alors,
Martin ?
Oui, bien sûr. Écoutez, ce couple qui l'exprime très bien, ils sont mariés depuis plus de 20 ans.
Pour moi, c'est une ambiance qui m'intrigue, en fait. Je pense qu'il va y avoir des bougies d'allumer et puis le fait d'être en présence de Dieu. On sait que le Seigneur peut nous surprendre à tout moment et peut-être que là, il va se passer quelque chose. Ça va être la surprise.
Ah bah c'est assez osé. Ça peut être une révélation, une apocalypse. Mais c'est quand même surprenant. Ils disent quoi, les paroissiens ? Est-ce que tout le monde aime l'idée, Martin ?
Alors, non, justement, certains ont même prévu de protester ce soir devant les portes de l'église pour perturber le dîner de Saint-Valentin. Il faut savoir que d'autres diacres organisent aussi des dîners ce soir, mais plutôt dans des salles paroissiales.
D'accord. Aimez-vous les uns les autres. Amen. En tout cas, c'est une idée originale. Fêtez la Saint-Valentin dans une église, l'église Saint-André à Reims. Martin Fenot, tous les jours sur le terrain, près de chez vous.
Nico Saliagas sur Europe 1.
À suivre l'édito écho avec Nicolas Barré. Il fait chaud dans le studio. Hein.
Il fait chaud.
Je crois qu'il doit faire dans les 38 ou 40 degrés.
Oh oui, facile, oui.
La clim est en panne. Mais bon, je le dis à nos amis de la régie qui sont dessus depuis ce matin. Vous allez parler de voitures électriques.
Oui, parce que le gouvernement veut mettre le paquet sur cette technologie. Vous allez voir, il y a beaucoup de mesures annoncées.
Et à 7h20, une question. Et si un espion chinois se trouvait en ce moment dans vos mains ou dans votre poche ? C'est ce qui inquiète sérieusement plusieurs pays occidentaux, dont la France. La guerre est déclarée apparemment contre le géant chinois de la téléphonie mobile. Huawei, enquête à suivre dans Europe 1. Va plus loin dans 5 minutes.
Bon réveil à tous sur Europe 1, il est 7h14. Il est 7h16, les principaux titres de l'actualité à revenir ce matin, Nico Saliagas.
Airbus qui annonce la fin de l'A380, les livraisons cesseront en 2021 pour ce géant des airs, lancé pourtant il y a seulement 12 ans. Une peine en semi-liberté pour l'ex-boxeur Christophe Détinger, 1 an de prison ferme, mais il pourra continuer à travailler. Début janvier, il avait violemment frappé 2 gendarmes lors d'une manifestation des Gilets jaunes. Journée cruciale pour la réforme de l'assurance chômage. Le patronat présente ses propositions contre la multiplication des contrats courts. Et en cas d'échec, le gouvernement mettra en place le bonus-malus promis par Emmanuel Macron. Alain Juppé prendra la parole en fin de matinée pour expliquer les raisons de son choix. Le maire de Bordeaux a en effet décidé de quitter sa ville et de rejoindre le Conseil constitutionnel.
Europe 1.
Il est 7h17, c'est l'heure de l'édito éco, Nikos.
Avec Nicolas Barré, le directeur de la rédaction du journal Les Échos. Alors, il faut accélérer la transition vers les voitures électriques. C'est le message qu'a adressé en substance le président de la République aux constructeurs automobiles du monde entier réunis hier soir à Paris.
Oui, la France se fixe comme objectif ambitieux de faire rouler 1 million de voitures électriques et hybrides rechargeables sur nos routes d'ici 2022. Aujourd'hui, à peine 2% du parc français est électrique. Alors, la prime de 6 000 euros pour l'achat d'une voiture électrique va donc être prolongée sur plusieurs années, a dit le président. Il faut aider les gens à se débarrasser de leur vieux diesel, a-t-il dit. Et puis, d'autres mesures sont prévues. Par exemple, les villes pourront créer des voies réservées pour les voitures électriques ou des places de parking réservé. C'est notamment ce qui a permis de faire décoller le marché en Norvège, qui est un paradis pour les voitures électriques, puisque un tiers du parc était électrique aujourd'hui.
Électrique. Et le président français s'inquiète du décrochage de l'Europe en matière de batteries aussi.
Oui, parce que les batteries, c'est presque la moitié du prix d'une voiture électrique. Or, aujourd'hui, cette industrie est asiatique. Presque tous les modèles que vous voyez roulent avec des batteries chinoises ou coréennes, d'où un plan pour créer un Airbus de la batterie, en espérant qu'il sera un peu plus efficace que celui que la 380. Ouais. À savoir un consortium d'entreprises françaises et allemandes qui développeront cette technologie. La France va mobiliser pour ça 700 millions d'euros, car non seulement il est crucial de maîtriser la technologie des batteries, mais il y a aussi tout l'écosystème qui se branche autour, les logiciels notamment qui permettent de faire fonctionner les véhicules, d'enregistrer les données. Mmh. Et grâce à cet effort, 2 usines vont être créées en France et en Allemagne.
Et qu'en est-il du nucléaire ?
Le nucléaire est considéré comme un atout pour ça. Il est évident que si vous rechargez vos batteries de voitures électriques avec du nucléaire produit par des centrales à charbon comme en Pologne ou en Allemagne, le bénéfice n'est pas évident. En France, on a l'électricité la moins chère d'Europe et celle qui émet le moins de CO2 grâce au nucléaire. C'est un point fort justement pour convaincre les constructeurs du monde entier, pourquoi pas Tesla par exemple, qui veut faire une usine en Europe, de construire leurs prochaines usines de voitures électriques en France.
Et de l'électricité française qui s'exporte aussi très bien en Europe.
C'est tout à fait, notamment en Allemagne.
Nicolas Barré pour l'édito Éco tous les jours sur Europe 1.
Europe 1. Nikos Aliagas.
Il est 7h19, place à l'enquête de la rédaction. Europe 1 va plus loin, s'intéresse ce matin au géant chinois de la téléphonie Huawei, soupçonné d'espionnage.
Ah, écoutez bien, parce qu'on se croirait dans un film d'espion. En fait, on est à mi-chemin entre l'économie, la diplomatie et la cybersécurité. L'entreprise chinoise Huawei, mastodonte de la technologie, est pointé du doigt par plusieurs pays occidentaux, dont les États-Unis, qui attaquent ouvertement ce géant chinois depuis le début. Et la France se montre désormais prudente également. Alors pourquoi, François Geffrier, du service économie d'Europe 1, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi tout le monde s'énerve ? Qu'est-ce qui se passe ?
Déjà, on parle d'une entreprise que personne en France ne connaissait il y a encore 3-4 ans et qui est aujourd'hui le 3e plus gros vendeur de smartphones dans le monde derrière Samsung et Apple. Sauf qu'en pleine guerre commerciale États-Unis-Chine, Donald Trump a lancé une croisade contre Huawei. Cette entreprise, fondée par un ancien de l'armée chinoise, ne serait pas qu'un champion technologique, mais aussi un bras armé de la Chine. En France, il y avait depuis des années une sorte de pacte secret entre l'État et les opérateurs Orange, Bouygues, SFR, Free pour ne pas utiliser Huawei dans leurs équipements stratégiques. Mais cet automne, SFR a fait des tests sur le toit de son siège à Paris avec des équipements Huawei à 100 mètres seulement du ministère des Armées, le Pentagone français.
D'accord.
Ça a froissé tout le monde car un ministre nous l'a dit, Huawei manque de transparence.
Qu'est-ce qu'on craint précisément ? On a peur de quoi ?
Il faut comprendre qu'un équipementier est tout puissant sur un réseau télécom, c'est ce que nous explique Nicolas Arpagian, auteur du livre « La cybersécurité ».
On peut craindre une coupure du réseau, ou en tout cas une non-disponibilité, un peu comme quelqu'un qui fait de la maintenance d'ascenseurs dans un immeuble, qui va décider si à un moment il va couper les ascenseurs ou il va les limiter à certains étages. Et puis il peut y avoir un peu comme une porte dérobée qui peuvent permettre d'assurer la bonne continuité de service. Et c'est là où se pose la question de la confiance que l'on va avoir dans l'équipementier, dans sa capacité à n'utiliser ces portes dérobées qu'à des seules fins de maintenance et pas à des fins d'interception.
Vous l'avez compris, personne n'accuse nommément Huawei, mais tout le monde craint de laisser la main sur nos réseaux à une entreprise chinoise géante.
Grégoire Martinez, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le spécialiste numérique d'Europe 1. On vous voit sur tous les réseaux sociaux. Vous faites le brunch régulièrement. Le Europe 1 sur Instagram. Vous étiez rendu au siège même de Huawei en Chine. C'est où ? C'est à Shenzhen ?
À Shenzhen.
Shenzhen.
Exactement.
Ne pas confondre avec Schengen. À quoi ça ressemble ? C'est impressionnant ?
Il faut vous imaginer une ville dans la ville. Shenzhen, c'est 12 millions d'habitants. Et le campus de Huawei, c'est plus de 170 000 salariés.
Quand même.
Le site s'étend sur 200 hectares. Il faut prendre un bus pour aller d'un bâtiment à l'autre. et les matériaux sont luxueux pour bien montrer le prestige de Huawei. Et c'est ici que l'entreprise met au point toutes ses technologies pour les smartphones, mais pas seulement.
Oui, parce qu'ils travaillent aussi sur la surveillance.
Exactement, ils sont même très fiers de montrer leur logiciel de vidéosurveillance qui font clairement penser à Big Brother. Ce sont des ordinateurs qui analysent le comportement des passants et des voitures dans la rue en permanence. Alors d'après Huawei, ça permet de détecter les accidents, mais aussi de traquer des fugitifs. Sauf que ça permet aussi, à l'inverse, de suivre les gens à la trace, ce qui ne serait pas du tout accepté en France.
Alors on a peut-être des auditrices, auditeurs qui ont un téléphone Huawei et qui se réveillent et qui nous écoutent peut-être même sur leur téléphone. Si j'en ai un dans ma poche, François Geffrier, ça veut dire que je suis automatiquement espionné ?
Plutôt non. La réponse est plutôt non, selon les experts de la cybersécurité et de la téléphonie que nous avons interrogés. Ni Huawei ni la Chine ne s'intéressent à monsieur ou madame tout le monde. Mais dans le même temps, c'est vrai que de plus en plus de patrons français, des avocats, des politiques se méfient et achètent leur téléphone portable en fonction de la nationalité du fabricant.
Non, mais ça veut dire que s'ils peuvent ne pas s'intéresser à nous, mais ils peuvent s'intéresser techniquement à n'importe quel moment. Et si Huawei est le meilleur dans son domaine, on peut difficilement se passer d'eux.
Oui, et puis s'il faut une autorisation pour chaque nouvel équipement, la France va se freiner toute seule à l'avenir, selon Michel Combeau, le directeur général de la Fédération française des télécoms.
On a un enjeu très fort maintenant d'apporter la 4G à tous les Français. C'est ce que nous demandent les élus, ce que nous demandent nos clients. Personne ne comprendrait qu'on vienne freiner ces déploiements. Et par ailleurs, la 5G, effectivement, arrive. La 5G est un enjeu de compétitivité de notre pays, de nos industries. Il est donc important que l'on ne prenne pas de retard sur, effectivement, cette conception des réseaux.
Et oui, la 5G, c'est dans 2 ans un nouveau réseau mobile plus rapide, plus fiable, permettant, par exemple, la téléchirurgie et de faire rouler les voitures sans conducteur. D'autres entreprises préparent la 5G. Il y a Nokia, il y a Ericsson. Mais ce n'est pas prêt, ça bug, ça merdouille. C'est ce que nous ont dit les opérateurs français qui font des tests en ce moment, alors que Huawei aurait déjà des machines performantes. Et puis, plusieurs sources au gouvernement, comme chez les opérateurs français, nous l'ont dit. De toute façon, si on ne se fait pas espionner par les Chinois, ce sera par les Américains.
Dites-moi, quelle fatalité. En tout cas, la guerre des espions se passe peut-être dans notre poche, peut-être même chez nous. Ils vous écoutent en ce moment. En tous les cas, j'espère que vous nous écoutez. François Geffrier, Grégoire Martinez, une enquête signée Europe 1. Va plus loin. Merci, messieurs.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
À suivre l'innovation du jour, Nikos.
Vous avez les oreilles toujours sur toutes les technologies qui arrivent, les innovations.
Oui, et on parle d'une intelligence artificielle qui est capable d'argumenter et de débattre avec les meilleurs spécialistes. On reste dans le numérique.
Entre les téléphones qui nous écoutent et l'intelligence artificielle, bon, on va rentrer chez nous, je vous le dis. Bon réveil à tous. Vous écoutez Europe 1, il est 7h24.
Il est 7h26. EDF, partenaire de la transition énergétique, vous présente l'innovation du jour. Et l'innovation, c'est avec Anis Mbida, Nikos.
L'intelligence artificielle a battu les meilleurs joueurs d'échecs, de poker, de jeux de go et même de Scrabble. Ou de Scrabble. Bref, elle vient de se faire battre par un humain, cette intelligence artificielle, dans un débat organisé il y a quelques jours aux États-Unis. Ça, c'est plutôt rassurant, Anissa.
Oui, oui, comme ça, si les machines essaient de nous asservir, eh bien, on pourra toujours argumenter contre elles.
Allez-y, non, argumenter.
Je pense plutôt que ça montre qu'un ordinateur est désormais capable de construire une argumentation convaincante à partir d'un sujet qui était donné au hasard. Mm-hmm. Là, en l'occurrence, la question était de savoir si, oui ou non, il fallait subventionner l'école maternelle. C'est un peu le débat qu'on a actuellement sur l'école obligatoire à partir de 3 ans. Mm-hmm. Eh bien, la machine devait démontrer que oui, l'homme que non, et chacun intervenait à tour de rôle pour répondre à l'adversaire. Alors le débat avait lieu en anglais, mais écoutez ce que ça donne un ordinateur qui argumente.
The Centers for Disease Control and Prevention reports that universal full-day preschool creates significant economic
savings in healthcare. C'est très fluide, Il cite des études, parce qu'il a accès à des millions d'articles sur Internet.
C'est impressionnant.
Il faut aussi preuve d'humour. Bref, il utilise toutes les ficelles pour contredire son adversaire.
Et quand on a demandé aux experts qui a été le plus convaincant dans le débat, c'est apparemment l'homme qui a gagné.
C'est vrai. C'est
pas
vrai.
De façon subjective, mais objective.
Objective, c'est vrai. Mais il faut quand même rappeler qu'un premier débat avait déjà eu lieu il y a 8 mois. Et là, c'est l'ordinateur qui avait gagné. Et si cette fois, il s'est incliné, c'est peut-être parce qu'il était face justement à 2 champions nationaux, comme il y a 8 mois, mm-hmm. mais face au champion du monde des débats. Oui, ça existe, un champion du monde des débats, qui en plus avait vraiment très malin, puisqu'il a été un peu démago. Il a joué avec les sentiments du public en
un
parlant
des
hausses d'impôts, alors que la machine, elle est restée uniquement sur les faits. Donc, je pense que ça va servir aux ingénieurs d'IBM, IBM qui est derrière ce projet, pour améliorer son algorithme et peut-être ajouter une dose de mauvaise foi pour être encore plus convaincant. Et là, je pense que les politiques ont des soucis à se faire. Ça sera encore bien meilleur que notre Audrey Crespo-Mara et Jean-Michel Apathy réunis.
Rien de plus fourbe et de plus humain qu'une personne, même face à une machine. Ouais. Merci beaucoup Anissa Mbida pour cette innovation.
C'était l'innovation du jour avec EDF, mieux produire et mieux consommer chaque jour pour contribuer à la transition énergétique. Retrouvez dès maintenant plus d'informations sur edf.fr. Dans deux minutes, le journal de Céline Kallmann. Mais tout de suite, c'est la météo avec Laurent Cabrol-Nicolas.
Parce que la météo, on peut la voir sur un téléphone, espionnée ou pas, mais sans Laurent Cabrol, elle n'a pas la même saveur.
Allons bon, moi qui ai plus que ça.
Évidemment.
Du soleil pour nous tous aujourd'hui, puisque nous fêtons la Saint-Valentin. Tenez, sachez que Valentin, c'est un prêtre qui, au 3e siècle, célébrait des mariages interdits et il fut décapité, d'où la fête de la Saint-Valentin.
Voilà, bonne fête.
C'est la raison, la raison pour laquelle on dit maintenant que quand on aime, on perd la tête. Alors, en ce qui concerne les températures maximales, ça se prépare, ça. 11 degrés à Dijon.
Vous en avez dans le ciboulot. Hein.
11 degrés à Dijon et Verdun. 12 à Lille cet après-midi. 13 à Paris. 13 à Mâcon, à Rennes, à Épinal et à Saint-Amour. 14 à Bourges, à Nantes et Poitiers. 15 à Marseille, Toulouse et Lyon. 16 degrés à Bolène et à Bordeaux. 17 à Clermont-Ferrand et 19 à Biarritz. Et du beau temps pour tous.
Merci Laurent Cabrol, on se retrouve juste avant 8h. Elle est dans la place et dans le studio. Elle arrive pour le journal de 7h30, Céline Kallmann.
Nous sommes le jeudi 14 février, il est 7h30.
Le journal avec vous, Céline Kallmann, bonjour.
Bonjour Nikos, bonjour à tous. C'est une réforme dont on connaît les contours, une réforme décriée par l'ensemble des syndicats, celle de la fonction publique qui doit être présentée aujourd'hui à Bercy. Édouard Philippe en a dévoilé les grandes lignes il y a presque un an. Objectif à terme, compter sur une fonction publique plus efficace qui répond davantage aux demandes des Français. Hier, 7 syndicats sur 9 ont claqué la porte. Après une heure de discussion, parmi eux, Christian Grolier de FO Fonctionnaires qui appelle à la grève le 19 mars prochain.
On découvre qu'on s'est fait avoir depuis un an. Soyons clairs, pendant un an, on nous a fait croire qu'on allait pouvoir changer les orientations du gouvernement et ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, dans le climat social actuel, dire aux fonctionnaires qui représentent quand même 20% de l'emploi salarié de ce pays, 5,5 millions d'agents publics, vous n'aurez aucun coup de pouce pour le pouvoir d'achat et l'avenir de votre statut est incertain, avec des risques de privatisation de mission, il ne faut pas s'étonner que nous, comme nous le ferons avec la Confédération Force Ouvrière et d'autres confédérations, on appelle à la grève le 19 mars. Donc nous, on maintient que la seule façon de contrecarrer ce gouvernement, c'est la mobilisation dans la rue.
Un propos recueilli par Olivier Samin, la CGT, Solidaire, mais aussi l'UNEF et l'UNEL appellent aussi à une journée d'action ce jour-là, donc le 19 mars prochain. 3 000 à 3 500 postes susceptibles d'être affectés par la décision d'Airbus. L'entreprise annonce ce matin la fin de la 380. Les dernières livraisons cesseront en 2021. Le constructeur aéronautique met fin au programme de son très gros porteur. Le carnet de commandes est insuffisant pour permettre de maintenir la production. On y revient évidemment dans le journal de 8h.
Emmanuel Macron attendu dans l'Indre ce matin. C'est une nouvelle séquence, grand débat.
Une trentaine d'élus vont participer à cet échange, dont le maire d'Issoudun, André Léniel. Il est aussi vice-président de l'Association des maires de France. Et voilà le message qu'il veut faire passer au chef de l'État.
Pendant 18 mois, on nous a pris comme bouc émissaire. On nous a dit « vous êtes trop nombreux ». Vous êtes dépensier, vous êtes incompétent, vous êtes clientéliste. Et puis là, d'un seul coup, depuis quelques semaines, nous devenons des boucliers. Le président étant en difficulté, va vers ceux qui sont le plus populaires dans l'opinion publique, c'est-à-dire les maires. Nous n'avons ni la vocation à être des boucs émissaires, ni la vocation à être des boucliers. Nous voulons simplement être des partenaires. Parce que la République et la démocratie en ont besoin dans notre pays.
André Léniel avec Anne-Laure Jumet. À peine relancé, le débat sur la taxe carbone a été recadré par Emmanuel Macron. La hausse de la fiscalité n'est pas la réponse à la colère exprimée par les Gilets jaunes, a dit le chef de l'État hier en Conseil des ministres. Hier soir sur LCI, Édouard Philippe a à son tour fermé la porte à un éventuel retour de la taxe. Et c'est lors de cette même émission qu'Ingrid Levavasseur a annoncé qu'elle abandonnait la liste du ralliement d'initiatives citoyennes qu'elle entendait mener pour les européennes.
L'ancien boxeur Christophe Détain. J'ai été condamné hier soir à un an de prison ferme.
La nuit en prison, la journée en semi-liberté. Il pourra travailler. Christophe Détinger comparaissait pour avoir frappé deux gendarmes le 5 janvier lors d'une manifestation des Gilets jaunes. Écoutez Farouk Largo, l'un des porte-parole du mouvement dans le Val d'Oise. Il salue cette décision.
J'espère que ça va inciter les gens à faire très attention parce que c'est pas de la rigolade de toucher un fonctionnaire de police. On a très bien compris. Oui, il a eu un coup de sang. Et Christophe, c'est vrai que ça l'avait vraiment touché. On le voit même dans les vidéos, tout ça, quand il a fait son mea culpa. C'est un homme sincère, intègre. Donc, vous avez bien vu, il n'avait rien dans son casier judiciaire. N'importe qui peut faire une erreur dans sa vie. Ça a duré une minute top chrono, ce qui s'est passé. Donc, 37 ans pour une minute, ça définit pas l'homme. Donc, merci à la justice et... soutien, grand soutien à Christophe.
Farouk Largo, micro Europe 1 de Chloé Triomphe. Une cagnotte en ligne avait été ouverte pour soutenir les forces de l'ordre et les pompiers blessés à l'initiative du président du conseil régional de PACA, Renaud Muselier. En un mois, près d'1,5 million d'euros ont été collectés. L'argent va être remis ce matin lors d'une cérémonie à l'hôtel des Invalides à Paris à l'amicale de la police nationale et son directeur, Marc Silvera.
On avait besoin aussi, nous policiers de terrain, de ce message d'amour. On remercie bien évidemment tous les Français qui ont participé. C'est vrai que c'est une somme qu'on ne s'attendait pas. Vraiment, plus d'un million d'euros destinés à l'ensemble des forces de sécurité intérieure engagées. On peut s'apercevoir que les Français aiment leur police.
Qu'est-ce qui va être fait de cet argent ?
À l'heure actuelle, on se dirige sur un million d'euros qui vont être adressés à l'ensemble des policiers, pompiers, agents du ministère de l'Intérieur touchés par les événements. Et les 450 000 euros environ restants qui vont être distribués et alloués à des associations, des orphelins, de la police, gendarmerie nationale, pompiers et la caisse de secours et de solidarité de l'amicale de la police nationale.
Un propos recueilli par Pierre de Cossette pour Europe 1.
Alain Juppé quitte la mairie de Bordeaux pour entrer au Conseil constitutionnel.
Oui, beaucoup de ses proches, de ses amis même, n'étaient pas au courant. L'ancien Premier ministre va donner une conférence de presse ce matin pour expliquer son choix.
Certains ne regardent plus la télé, mais tout simplement Netflix.
Oui, 4 ans et
c'est
demi
pas beau
après,
pour nos affaires, ça.
Pour votre affaire, 4 ans et demi après son lancement, le géant américain de la vidéo en ligne a dépassé les 5 millions d'abonnés en France. Un chiffre surprenant, nous explique Capucine Cousin, elle est auteure d'un livre sur Netflix.
C'est vrai que quand Netflix s'est lancé en France, la marque était peu connue. Beaucoup estimaient que ça n'allait pas marcher et que ce mode de consommation n'intéresserait pas forcément le téléspectateur français. Et finalement, ça a décollé quand même assez vite. Ce qui est certain, c'est que Reed Hastings, il a dit à plusieurs reprises qu'il misait sur la France, que c'était un marché qui l'intéressait. D'ailleurs, Netflix a montré patte blanche ces derniers mois en réaffirmant qu'il avait plusieurs productions françaises en cours. Il y aurait à peu près 14 séries, films, documentaires, etc., y compris une série réalisée par Damien Chazelle, réalisateur oscarisé pour La La Land. Il y a Arsène Lupin avec Omar Sy. Il y a également quelques documentaires sur l'affaire Grégory. Leurs productions, elles sont assez variées et assez osées.
Capucine Cousin avec Hélène Terzian.
Vous me regardez un peu à la télé de temps en temps, Céline Kallmann ?
Pas trop, j'ai pas vraiment le temps.
En plus, elle dit non. Ah, moi, c'est insolence.
Oui.
Ouais, demain, vous prenez votre jour de RTT. Merci beaucoup.
Vous me l'offrez ?
Le journal était présenté par la talentueuse Céline Kallmann.
Si vous souhaitez réagir, faites-le en nous appelant au 3921 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1.
Nicolas Aliagas sur Europe 1.
La politique à suivre avec vous, Jean-Michel Apathy.
Oui, les bulletins d'inscription scolaire vont être modifiés. C'est l'Assemblée nationale qui a voté cette modification. Il n'y aura plus marqué père et mère sur ces bulletins d'inscription, mais parents 1 et parents 2.
Oula.
C'est le progrès.
Ça fait jaser, j'imagine.
Ah, ça fait jaser. Ça fait bouger, ça remue les consciences.
Axel de Tarlé, on parlait tout à l'heure de la fin de la 380. Vous allez nous parler de quoi dans votre rubrique ?
Alors, malheureusement, je vais vous parler de ces images de fin du monde climatique en Australie qui ont poussé les autorités australiennes à prendre une décision historique, vous allez le voir.
Apathy Tarlé, duo gagnant dans un instant sur Europe 1. J'espère que vous êtes bien réveillés, on vous accompagne jusqu'à 9h.
Il est 7h39, Nicolas Aliagas, c'est l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy.
Les députés étudient actuellement le projet de loi sur l'école et viennent d'adopter un amendement reconnaissant la parentalité des couples homosexuels. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Que les mentions père et mère n'existeront plus.
C'est ça.
Et qu'on mettra quoi à la place ?
On mettra parent 1 et parent 2. Voilà, donc okay. Pour prendre en compte effectivement les couples homosexuels, alors ça suscite des oppositions, les Républicains, le Rassemblement National dénoncent cela, ça déconstruit l'équilibre de notre société, disent par exemple les Républicains, et on a noté d'ailleurs lors de la discussion parlementaire, lors de la discussion à l'Assemblée Nationale, que le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer, il s'est pas mouillé, il était en désaccord avec l'amendement, parce que c'est les députés qui imposent ça au gouvernement, mais pas en disant je suis contre sur le fond, mais ça relève pas du domaine de la loi, donc laissez-moi faire. On ne sait pas si ça va aller jusqu'au bout de la discussion parlementaire,
d'accord.
On verra bien. Alors, on peut critiquer, mais n'empêche que c'est inévitable. Puisqu'on a instauré en 2013 la reconnaissance pour des gens de même sexe de se marier, fatalement, si deux hommes ont la charge d'un enfant, on ne voit pas l'un des deux hommes mettre sur un bulletin scolaire son nom à la case mère. C'est idiot. Et de la même façon, si c'est deux femmes, il n'y en a pas une qui va mettre son nom à la case père. Donc, il fallait faire quelque chose. Il fallait accorder la réalité administrative avec la législation, puisque nous avons accepté, reconnu le mariage homosexuel. Donc, il faut bien faire quelque chose. Mais quand on le fait, c'est un choc. D'abord parce que c'est un changement culturel. Ne plus appeler des parents père et mère, mais parent 1 et parent 2, bon, c'est vrai que c'est un changement.
Pourquoi ne pas mettre père 1, père 2, je sais pas.
Peut-être qu'on pourrait être plus original.
Peut-être pour des raisons d'économie aussi.
On va y revenir. Mais après, quand on met, vous avez raison, quand on met des chiffres, ça déshumanise complètement. Voilà, c'est très administratif, parent 1, parent 2, c'est moche. Et puis, il y a un problème de hiérarchie. Ça n'a l'air de rien, mais prenez un couple hétérosexuel cette fois. Oui. Quoi, c'est le père qui va toujours prendre la place de parent 1 et la mère est toujours la place de parent 42. Bah écoutez, les féministes vont être très contentes de l'apprendre. Enfin, vous voyez, ça peut faire. Oui. Et puis même dans les couples homosexuels, qui va être le numéro 1 ou le numéro 2. Enfin, ça n'est pas satisfaisant. Est-ce qu'on peut trouver autre chose comme appellation 39-21, si vous avez des idées, ou alors vous appelez l'Assemblée nationale.
Hashtag
01-40-63-40-00.
Voilà. Vous donner le numéro de l'Assemblée nationale.
Oui, pourquoi pas. Appelez. Appelez pour donner des idées aux députés.
Faites-le, encore une fois.
01-40-63-40-00. Okay. Et je le dis de mémoire, j'espère que je ne me trompe pas, parce que sinon, on va vérifier après. Enfin, on vous précisera tout ça. Mais je crois que c'est ça. Enfin, bon, quelqu'un peut vérifier en régie.
Si vous voulez aller jusqu'au bout de l'histoire, il faut faire un appel au vote. Et vous dites, si vous voulez que ce soit parent 1, parent 2, tapez 1. Si vous voulez que ce soit père et mère, il faut aller jusqu'au bout de l'histoire. Jean-Michel Apathy.
Vous voyez que c'est une chronique où on peut vraiment être très innovant. Et si vous avez des idées, en tout cas, il fallait accorder le droit à la réalité, ça c'est une évidence. En 2013, les opposants au mariage pour tous, qui avaient utilisé toutes sortes d'arguments, certains homophobes, c'était un débat assez moche par certains côtés, mais enfin, les opposants au mariage pour tous tentaient d'alerter l'opinion publique en disant, vous allez voir, on va abandonner l'appellation père et mère, et ça va devenir parent A et parent B, ou parent 1 et parent 2. Et à l'époque, les articles reviennent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, notamment Libération disait c'est du fantasme total, et bien on y est complètement, bientôt on dira que parent 1 fait la vaisselle pendant que parent 2 passe le balai, et c'est une époque formidable.
Jean-Michel Apathy,
c'est le bon numéro, hein, l'Assemblée nationale.
Oui, il y en a
40-63-40-00.
Oui, on avait compris, merci Jean-Michel Apathy pour votre point de vue quotidien. Axel de Tarlé, on va partir en Australie avec des sécheresses et des pluies diluviennes sans précédent, et c'est un pays aujourd'hui qui vit concrètement dans son quotidien, dans sa chair, le réchauffement climatique.
Eh bien, écoutez bien, la région du Queensland, alors c'est au nord-est de l'Australie, vient de vivre quasiment 5 ans de sécheresse, donc 5 ans sans une goutte de pluie. Et là, en l'espace de 3 jours, il est tombé par endroits l'équivalent de 3 années de pluie. Donc je vous laisse imaginer l'état du sol. Les images sont saisissantes. La terre est transformée en mélasse et malheureusement, tout le bétail s'est retrouvé pris au piège de ce torrent de pluie qui a transformé les prairies en océan. On compte, tenez-vous bien, plus de 500 000 bovins morts. La première ministre de la région du Queensland parle d'une mer de bétail mort. Je cite des témoignages, hein. Des carcasses de bovins peuplent le paysage. Des cadavres de kangourous reposent sur les arbres. Malheureusement, c'est tout le vivant qui est pris au piège de ce dérèglement climatique australien, car juste avant ces pluies diluviennes, le thermomètre, c'est l'été en Australie, est monté jusqu'à 49,5 degrés Celsius, tuant plus d'un million de poissons. Puis, il y a eu ce déluge de pluie qui, aujourd'hui, crée des scènes du fin du monde. C'est tout bête, mais avec la montée des eaux, les crocodiles ont envahi les villes du Queensland et du coup, il a fallu envoyer l'armée pour protéger les habitants.
Des images apocalyptiques, là on ne peut pas le nier, qu'on soit un climato-sceptique ou pas. Il y a un problème, il y a un dérèglement climatique.
Alors justement, vous le dites, l'ironie, c'est que l'Australie, comme l'Amérique de Donald Trump, faisait partie de ces pays climato-sceptiques et adeptes du charbon à grande échelle. L'Australie, c'est le premier exportateur mondial de charbon. Il en tire 67 milliards de dollars. C'est la première ressource du pays. Eh bien justement, les esprits sont en train de changer en Australie avec cette décision qui fera date, puisque pour la première fois, un tribunal, donc un juge australien, vient d'interdire l'ouverture d'une mine de charbon au nom du dérèglement climatique. Le juge australien a mis en avant les émissions de CO2 qui sont mondiales, hein, et le fait que l'Australie avait signé en 2016 les accords de Paris sur le climat. C'est une première mondiale, hein, un juge qui interdit l'ouverture d'une mine de charbon au nom du climat. Preuve que ce traité de Paris sur le climat n'est pas aussi inutile qu'on a voulu le dire. Preuve aussi que les esprits sont bel et bien en train de changer, malheureusement, sous la pression de faits dramatiques avec ces images épouvantables de cauchemars climatiques.
Même si vous êtes très inquiétant ce matin, Axel de Tarlé, vous n'en restez pas moins passionnant dans votre analyse. C'était le Zoom Echo.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Dans un instant, on va revenir sur cette terrible affaire de Jamal Khashoggi, ce journaliste saoudien sauvagement assassiné au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul, c'était le 2 octobre dernier. Et ce matin, je reçois le grand reporter Régis Le Sommier de Paris Match. Il a rencontré en exclusivité la fiancée de Khashoggi, celle qui l'attendait devant le consulat, en vain. Il nous raconte l'histoire juste après ça.
Bon réveil à tous sur Europe 1. Il est 7h46, les principaux titres à retenir ce matin, Nikos Aliagas.
Le taux de chômage est en recul de 0,3 points à 8,8 de la population active. C'est son plus bas niveau depuis 2009, selon les chiffres provisoires de l'INSEE. Airbus va arrêter la production de l'A380. Les dernières livraisons auront lieu en 2021. La compagnie Emirates, qui avait commandé 20 gros porteurs il y a un an, compte en convertir un certain nombre en Airbus A350. Christophe Détinger, condamné à un an de prison ferme, qu'on peut aménager en semi-liberté. L'ancien boxeur a été jugé pour avoir violemment frappé deux gendarmes le 5 janvier lors de la 8e mobilisation des Gilets jaunes. Puis l'ancien Premier ministre Alain Juppé en passe de succéder à Lionel Jospin au Conseil constitutionnel. Il va donc quitter la mairie de Bordeaux. Il prendra la parole en fin de matinée pour expliquer son choix.
Europe 1. Nico Saliagas, vous revenez ce matin sur l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. C'était le 2 octobre dernier au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Vous recevez Régis Le Sommier, grand reporter à Paris Match, qui publie une interview exclusive aujourd'hui, celle de la compagne de Jamal Khashoggi.
Bonjour Régis Le Sommier.
Bonjour Nico.
Vous avez rencontré Hatice Sengiz, elle est turque, elle a 36 ans. Vous l'avez rencontrée dans quelles conditions à Istanbul ?
Alors dans des conditions très particulières, parce que c'est une femme depuis cet assassinat, depuis ce crime abominable, qui est en fait sous surveillance. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas assisté, mais elle a accompagné Jamal Khashoggi jusqu'aux portes du consulat. Elle l'a attendu, donc elle a été un petit peu... Elle n'a pas été témoin, puisqu'elle a attendu pendant très longtemps devant, et son futur époux n'est jamais ressorti. Donc c'est une personne clé dans ce drame. Elle a passé environ un an avec lui. Il devait se marier. Il lui manquait quasiment un document, ce qui est terrible de s'imaginer. C'est le document qu'il devait avoir au consulat, qu'il devait obtenir au consulat, c'était le document qui lui était le sésame pour qui prouvait son divorce et qui montrait qu'il pouvait donc à nouveau se marier avec Hatice. Il devait se marier le lendemain, donc c'était prévu, voilà, c'était le dernier document. Et elle l'a accompagné, en fait, ils ont pris le taxi tout simplement pour aller récupérer ce document au consulat.
Alors dans cet entretien qui est publié aujourd'hui dans Paris Match, elle vous explique, Régis Le Sommier, qu'elle commence à s'inquiéter aux alentours de 16h. Elle va passer un coup de fil à sa sœur qui lui dit que le consulat est fermé depuis 15h30. Enfin, c'est l'horaire officiel. Elle va passer un coup de fil au consulat. On écoute un extrait de cette interview que vous avez enregistrée dimanche dernier.
J'ai expliqué à deux policiers turcs que Jamal n'était pas ressorti. Ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire. Ils paraissaient sincères. Mais j'ai appelé le consulat. Je leur ai demandé où est Jamal. On m'a répondu « Qui êtes-vous » J'aurais dit que j'étais sa fiancée, que j'étais à la barrière. Ils m'ont dit « Ne bougez pas, j'arrive ». Un homme est sorti, visage fermé, agressif. Il m'a dit « Il n'y a plus personne à l'intérieur. Tout le monde est parti ».
Est-ce qu'à ce moment-là, Hatice Sengiz, la fiancée et la future femme de Jamal Khashoggi, réalise ce qui s'est passé ?
Alors, elle réalise qu'il s'est passé quelque chose et elle me dit, c'est en regardant le visage de cet employé du consulat, son agressivité, sa surprise aussi de me retrouver là, parce que je pense que c'était quelque chose qui n'était pas prévu dans le piège qui a été tendu à Jamal Khashoggi, c'est que sa fiancée l'attende précisément dehors. Elle m'a dit, en regardant son visage, j'ai compris que quelque chose s'était passé. Je ne pense pas qu'elle n'avait une notion de la mesure du crime et de l'abomination qui était en train de se commettre pendant qu'elle attendait dehors. Donc, mais elle savait aussi que Jamal Khashoggi, d'une certaine façon, elle savait qu'il était menacé, elle savait que c'était un journaliste à risque qui avait été expulsé d'Arabie Saoudite d'abord.
Même s'il n'avait pas peur de se rendre au consulat, il est allé de façon très décontractée.
Alors il faut d'abord savoir qu'ils y sont allés deux fois. Première fois le 28 septembre, là, il y avait aussi un stress. Lui craignait surtout qu'on lui prenne son passeport. Parce que comme c'était un Saoudien qui avait été expulsé d'Arabie Saoudite, il craignait qu'on prenne son passeport ou éventuellement qu'on essaye de l'expulser en Arabie Saoudite. Ça aurait été un peu plus compliqué.
Parce qu'il vivait à Washington, il était journaliste là-bas.
Il était à Washington, il déambulait en fait entre Washington, Londres et Istanbul où il venait voir sa fiancée. Et en fait, la tragédie dans cette histoire, c'est qu'il devait avoir absolument le document du consulat saoudien à Istanbul et pas ailleurs. Donc c'est là où un piège lui a été tendu. Ils y sont allés une première fois le 28. On leur a dit revenez le 2. Il est revenu le 2. Il a appelé. On lui a dit on va vous rappeler. 40 minutes après, le consulat l'a rappelé. Venez à 13h. Voilà, tout était en place.
C'était un coup monté.
Exactement.
Pourquoi cette femme est-elle en danger aujourd'hui? Pourquoi elle est surprotégée?
Alors, elle est surprotégée parce que elle reste dans l'équation Khashoggi, qu'il y a une enquête qui est en cours, dans laquelle les Saoudiens d'ailleurs ne sont pas très coopératifs. Il y a un procès aussi qui est en cours. Donc,
à huis clos, on ne sait pas trop pour qui on a demandé une condamnation à mort, par exemple.
En fait, on s'avère qu'un certain nombre des principaux intéressés ne sont pas dans le box des accusés et que c'est plutôt, encore une fois, des sous-fifres qui vont payer. Mais voilà, donc il y a une commission, il y a une enquête aussi qui a été diligentée par l'ONU. Donc c'est un sujet extrêmement, extrêmement sensible dans les relations internationales. Rendez-vous compte, la mort de Khashoggi, quelque part, fait plus pour pour montrer la nature du régime saoudien que la guerre au Yémen.
Régis Le Sommier, on a eu vent de ces enregistrements qui ont été réalisés au sein même du consulat pendant l'exécution, vraisemblablement, de Khashoggi par les services secrets turcs. En tout cas, ce sont des enregistrements qui ont tourné dans les bureaux diplomatiques, dans les rédactions. Est-ce que sa veuve, sa fiancée, l'a entendu l'enregistrement?
Je ne lui ai pas posé cette question-là. Ça faisait partie de mes questions, mais c'était tellement difficile.
Impossible, sur le plan affectif, de lui demander
cette
ça.
Cette interview, j'ai passé 2 heures avec elle. Il y a eu au moins 3 interruptions où elle a repris son souffle, où il a fallu...
Pourquoi
Parce que 4 mois, on est à seulement 4 mois de la disparition de Jamal Khashoggi. Vous imaginez cette femme qui a vécu... c'est impossible pour elle, pour le moment, de refaire sa vie ou de se recomposer simplement. Et je sentais d'ailleurs au moment de l'interview qu'au fur et à mesure qu'on arrivait vers ce moment critique du consulat, les choses devenaient de plus en plus pénibles. Et voilà, elle s'est effondrée en larmes plusieurs fois. C'est des questions que j'avais. J'ai pas pu la poser,
par
celle-là.
Par dignité, par respect pour une femme en deuil qui a fait son deuil, vous l'avez senti?
Non, elle n'a pas fait du tout son deuil parce que d'abord, il n'y a pas de corps. Ce qui est encore plus horrible dans l'histoire de Jamal Khashoggi, c'est qu'il rentre dans un consulat, il n'en ressort pas, mais son corps n'en ressort pas non plus. On ne sait pas actuellement où est le corps de Jamal Khashoggi.
On dit qu'il a été dissous dans de l'acide, dispersé.
Voilà, en tout cas, les Saoudiens affirment, eux, ne pas avoir le corps, ne pas avoir d'idée où peut se trouver le corps. Ce qu'on a vu simplement, c'est sur une bande enregistrée, une vidéo, c'est des sacs sortir, mais on ne sait pas où ces sacs sont allés, ni ce qui en a été fait. Donc voilà, c'est impossible pour elle de faire son deuil tant qu'elle ne récupérera pas le corps de son mari.
Que réclame aujourd'hui Hatice Sengiz, la fiancée de Khashoggi?
Eh bien déjà, elle réclame de pouvoir faire son deuil, justement. Et puis, évidemment, elle réclame justice. Évidemment, elle va tout faire ce qui est possible. Elle a prévu d'aller en mars à Washington, où elle a quand même quelques alliés. La grande hypocrisie dans l'affaire Khashoggi, c'est qu'évidemment, les États-Unis ne lâchent pas le régime saoudien pour des raisons tout simplement industrielle, pour la raison...
Erdogan non plus, alors qu'il menace.
Erdogan non plus, mais Erdogan s'est fait un malin plaisir de distiller les enregistrements du consulat pour embarrasser ce vieux rival saoudien qui est le rival principal de la Turquie pour la domination du monde sunnite. Donc il y a une partie autour de l'affaire Khashoggi, autour de la mort de Jamal Khashoggi, il y a une partie diplomatique qui se joue, très intense, encore très présente, également aux États-Unis, l'opposition entre certains républicains du Congrès et des démocrates et Donald Trump soutenant encore le prince héritier et le Congrès ayant tendance à le lâcher, la CIA également. Donc c'est une affaire internationale énorme.
Et au sein de ce balai diplomatique d'intérêts, de pression politique, c'est un homme et un journaliste qui s'est fait sauvagement assassiner et qui voulait juste, par amour pour cette jeune femme, Hatice Sengiz, avoir un papier de divorce pour pouvoir, justement, cette Saint-Valentin, c'est un peu symbolique et sans rentrer dans l'eau de rose, dire à une femme « je t'aime et je veux faire ma vie avec toi », il n'aura pas eu le temps de le faire. Interview à lire dans Paris Match, entretien exclusif que vous avez réalisé, Régis Le Sommier, à partir d'aujourd'hui dans le Paris Match aujourd'hui. Merci d'avoir été notre invité ce matin.
Merci.
Sur Europe 1.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Dans un instant, retour sur la terrible affaire Khashoggi, on l'a dit, mais il y aura aussi, dans le rappel des titres, une interview exclusive. Je vous en dis pas plus, à tout de suite.
Il est 7h57, c'est l'heure de la petite histoire du jour, Nikos.
Jean-Philippe Ballas.
Oui, Nikos.
On part d'une bouteille à la mer ce matin.
Ouais, c'est l'histoire de Lilian, un petit garçon de 9 ans qui rêve de découvrir un trésor ou une bouteille échouée sur la plage. Souvent, il cherche, comme tous les gamins, seulement des trésors. Lilian, il n'en trouve jamais et ça l'énerve un peu. Alors, le garçon va créer sa propre aventure. Taper un message sur l'ordinateur familial avec son nom, son adresse, glisser la feuille dans une bouteille en verre, un pas en plastique et lancer la bouteille à la mer. C'est ce qu'il fait le 26 décembre dernier sur une plage de l'île de Ré. Bon, elle va pas aller très loin la bouteille, mais c'est mignon, pensent secrètement les adultes qui l'accompagnent. Sauf qu'ils ont tort. La bouteille va naviguer, dériver dans l'Atlantique et venir s'échouer quelques semaines plus tard, 310 km plus au sud, sur une plage de Souston, dans les Landes. Et c'est un autre petit garçon qui va la découvrir. Il s'appelle Tim, il est en CE1 et lui aussi aime bien les aventures. Tout fier, il apporte la bouteille à l'école. Ses copines, ses copains de classe posent un milliard de questions et décident de répondre à Lilian. Avec leur instinct, ils vont même dessiner le parcours de la bouteille sur une carte et mettre le tout dans une enveloppe. La tête de Lilian lorsqu'il reçoit la réponse. Hallucinant et sauté de joie partout, c'est ce que me dit sa maman à qui j'ai passé un coup de fil hier et qui raconte d'ailleurs que les bouteilles à la mer, c'est un peu une tradition familiale. Dans les années 60, le grand-père de Lilian en avait trouvé une sur une plage de Noirmoutier. Elle venait d'encore plus loin, des États-Unis, oui, envoyée par la NASA carrément. À l'époque, elle étudiait les courants dans l'océan Atlantique. Bref, ça va en faire des choses à se raconter. Lilian va profiter des vacances pour répondre à son tour à Tim et à sa classe, c'est promis. Aventure certifiée 100% sans écran, sans jeu vidéo. Vous savez quoi finalement le bonheur ? C'est simple, comme une bouteille à la mer.
Vous avez toujours de bons messages le matin avant le journal de 8h. Merci Jean-Philippe Ballas pour la petite histoire du jour.
À suivre le journal de David Doucan, mais tout de suite c'est la météo avec Laurent Cabrol, Nikos.
Laurent Cabrol, oui. Le soleil est de retour, il est là.
Le ciel, le soleil et la mer, tout le monde est là.
Ouais, et vous aussi.
Nous avons un temps très très agréable aujourd'hui, après les températures froides de ce matin. La bonne nouvelle, je le disais tout à l'heure, c'est la fin des brouillards, ou en tout cas provisoire des brouillards. Ils ne sont pratiquement pas présents sur le pays à l'heure où nous parlons, mais des températures entre moins 5 et plus 5. Je voudrais dire que ce beau temps va durer jusqu'à dimanche inclus. Dimanche va commencer un petit peu à changer. Lundi, mardi, mercredi seront des journées pas très folichonnes, mais ça ne va pas durer puisqu'à partir du 20 ou du 21, donc mercredi ou jeudi ou vendredi prochain, eh bien nous renouerons avec un temps très ensoleillé. Aujourd'hui, il fera 11 degrés à Verdun, pardon, et à Dijon, 12 à Lille, 13 degrés à Mâcon, à Paris, à Épinal, 14 à Nantes, à Poitiers, dans la petite ville de Saint-Valentin, dans l'Indre, 15 degrés à Marseille, à Toulouse et Lyon, 16 degrés à Bolène, 17-18 à Clermont-Ferrand et 18-19 à Biarritz.
Merci, à tout à l'heure.
Excellente matinée à l'écoute d'Europe 1 ce jeudi 14 février. Il est 8h, très bon réveil. Et votre matinale info se poursuit jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas.
Le journal avec vous, David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
Toute l'actualité du jour.
C'est un crash économique. L'aventure de l'A380 est terminée. Airbus annonce la fin de la production. Page complète dès le début de ce journal. Alain Juppé entre au Conseil constitutionnel. Surprise générale à Bordeaux, mais aussi dans la classe politique nationale. Pourquoi ce choix ? La réponse dans cette édition. Et enfin, nous irons au théâtre. Molière fait toujours recette. En ce moment, c'est Lambert Wilson qui interprète le Misanthrope à Paris. Donc Nikos, nous avons à 8h12 Vincent Hervouet avec les violences en Haïti. Les manifestants réclament le départ du président Jovenel Moïse. Et à 8h15, Audrey Crespo-Mara reçoit Gabriel Attal, secrétaire d'État à la jeunesse.
Europe 1.
On s'y attendait, c'est confirmé. Airbus abandonne son jumbo jet. Fin de production pour l'A380, un avion magnifique. Mais les compagnies aériennes n'achètent pas. Cela rappelle évidemment le destin du Concorde. Bonjour François Geffrier.
Bonjour à tous.
On parle, François, d'une perte sèche autour de 10 milliards d'euros pour Airbus.
Oui, Airbus n'a pas encore fait le bilan, mais c'est bien sûr une catastrophe, un échec retentissant. Si vous allez ce matin sur le site web d'Airbus, l'A380 est encore présenté comme le futur de l'aviation long courrier. Sauf que le futur imaginé par Airbus au milieu des années 2000 n'est jamais arrivé. L'A380 est un avion de 500 passagers. Embarquer et débarquer tout ce petit monde, c'est une logistique énorme. Il a fallu construire des terminaux spéciaux dans les aéroports, renforcer certaines pistes. Et puis, économiquement, ça ne tenait pas. Sur un Paris-New York, vous pouvez utiliser un A380, il y a suffisamment de monde, mais pas sur une liaison avec une ville plus petite. Enfin, c'était très cher, 400 millions de dollars au catalogue, 100 millions de plus qu'un Boeing 777. Airbus avait tenté un lifting avec la 380+, plus économe en carburant, ça n'a pas sauvé le programme. La compagnie Emirates, qui annonce réduire ses commandes, était historiquement le plus gros client de cet avion. On ne produisait plus aujourd'hui qu'un A380 tous les deux mois. Alors que, pour vous donner une idée, si vous prenez le modèle plus petit, l'A320, le constructeur Airbus prévoit d'en faire sortir deux chaque jour de ses usines cette année.
Merci à vous François Geffrier. Prenons maintenant la direction de Toulouse où nous rejoignons notre correspondant Benjamin Peter. Vous êtes, Benjamin, devant l'usine où on assemble l'A380, on imagine l'émotion des salariés.
Oui, je me trouve devant cette usine aux dimensions hors normes. Hein. C'est un hangar gigantesque où sont assemblés le gros porteur. La fierté des salariés, et ce matin, c'est un coup de massue. J'ai vu arriver quelques salariés qui venaient de l'apprendre, mutiques. J'ai pu joindre Françoise Valin, la représentante de la CFE-CGC. Pour elle, ça n'est pas vraiment une surprise, mais ça reste douloureux.
On avait bien conscience qu'Emirates, la compagnie Emirates, c'était vraiment la compagnie qui faisait tenir ce programme. Et donc, on savait très bien que le programme tenait qu'à un fil. Et puis, voilà, aujourd'hui, ce fil est rompu. C'est vrai que c'est un gâchis quand on voit cet avion, parce que cet avion, c'est un avion qui est plébiscité par les passagers. C'est un avion qui a fait énormément progresser Airbus, ses fournisseurs, ses sous-traitants. Ça sera vraisemblablement un peu la sourde à la grimace. Ça me rappellera, en tout cas personnellement, de très mauvais souvenirs, comme cette dernière journée où j'ai vu arriver un Concorde en se disant que ce Concorde venait atterrir à Toulouse pour la dernière fois. C'était exactement ce même sentiment-là. C'est un peu lourd de se dire qu'on vit ça dans une carrière, surtout quand on aura toujours en face ces bâtiments qui, eux, resteront.
Et au-delà de l'émotion, l'inquiétude, évidemment, elle concerne l'emploi, puisque dans son communiqué, Airbus indique que 3 000 à 3 500 emplois pourraient être touchés par l'arrêt de ce programme dans les trois prochaines années.
Merci Benjamin Peter en direct de Toulouse pour Europe 1.
C'est un très gros morceau pour la suite du quinquennat, la réforme de la fonction publique.
Absolument, et le gouvernement a abattu ses cartes hier soir. Le secrétaire d'État Olivier Dussopt a présenté aux syndicats de fonctionnaires l'avant-projet de loi. Et c'est peu dire qu'il ne leur a pas plu. Ils ont presque tous claqué la porte après une heure de réunion parce que la volonté de Bercy, c'est une refonte totale de la fonction publique. Olivier Samain.
Ce qui est sûr, c'est que cette réforme va transformer en profondeur le fonctionnement des administrations. Recours élargi aux agents contractuels, possibilité de recruter des profils venus du privé pour des postes à haute responsabilité, création d'un contrat de projet pouvant durer jusqu'à 6 ans pour exercer des missions spécifiques que l'administration ne sait pas bien accomplir aujourd'hui, suppression de la référence à la notation pour instaurer à la place un entretien professionnel, comme dans le privé. Prise en compte accrue de l'implication professionnelle et du mérite pour déterminer la rémunération. Mise en place de plans de départ volontaires quand un service est supprimé ou reconfiguré. Création d'une instance unique de dialogue social à la manière de ce que les ordonnances Macron ont fait dans le secteur privé. Ou encore, suppression des régimes dérogatoires en matière de temps de travail dans la fonction publique territoriale. Dans certaines villes ou départements, les agents font moins de 35 heures du fait d'accords très anciens. Ce ne sera bientôt plus possible. Ces nouvelles règles, dit le gouvernement, ne visent pas à remettre en cause le statut des fonctionnaires, simplement à rendre la fonction publique plus attractive et plus réactive.
Olivier Samain du service économie d'Europe 1. Le Macron Show continue aujourd'hui et fait étape dans l'Indre. Le président de la République débattra avec les maires du département à partir de midi. Il échangera ensuite avec des chefs d'entreprise à 16h. Le taux de chômage recule de 0,3 points à 8,8% de la population active selon les chiffres de l'INSEE publiés ce matin. C'est le plus bas niveau depuis 2009.
Europe 1.
À suivre dans le journal, Alain Juppé, qui va faire son entrée au Conseil constitutionnel. Surprise générale, il quitte Bordeaux et c'est une nomination lourde de sens. On vous dit tout dans le journal de David Doucan juste après ça, tout de suite.
Il est 8h07, votre matinale info, Nikos Aliagas.
La suite du journal avec David Doucan, avec un secret qui a été bien gardé, puisqu'Alain Juppé quitte Bordeaux et va faire son entrée au Conseil constitutionnel.
Oui, et cela a surpris toute la classe politique, en particulier à Bordeaux, qui va donc perdre son maire. Bonjour Stéphane Place.
Bonjour David.
Bonjour, vous êtes en direct pour Europe 1 depuis Bordeaux. Même les plus proches d'Alain Juppé n'ont rien vu venir.
À surprise totale, y compris pour Stéphane Delot, par exemple, fidèle parmi les fidèles, adjoint d'Alain Juppé depuis plus de 20 ans.
On a envie de lui dire merci, même si on est, c'est vrai, un peu sous le choc de l'émotion.
Et de la surprise, qu'il n'y a rien qui avait filtré ?
Strictement rien. J'ai vu déjà un certain nombre de mes collègues, ils n'en savaient pas plus.
Des élus locaux qui tombent de l'armoire, pour reprendre l'expression de l'un d'eux, sentiment partagé par les Bordelais que nous avons croisés ici, devant l'hôtel de ville.
Complètement surpris par son attitude. Moi, je pense qu'il aurait dû rester jusqu'à la fin de son mandat.
Peut-être est-ce dû un petit peu à tout ce qui s'est passé depuis les dernières semaines, avec les gilets jaunes, j'ai l'impression que ça commence à l'agacer.
C'est une bonne chose, parce que c'est un homme sage. C'est vrai que c'était un très bon maire. Le dynamisme de la ville, qui a bien bougé depuis qu'il est là.
sa succession, ses motivations profondes. Alain Juppé devrait en dire un peu plus tout à l'heure, à 11h, au cours d'une conférence de presse ici à la mairie.
Merci Stéphane Place. Et bonjour, Mickaël Darmon.
Bonjour.
C'est Richard Ferrand qui propose Alain Juppé au Conseil constitutionnel. Mais bien sûr, Emmanuel Macron a validé ce choix. Quel est, Mickaël, la signification politique de cette nomination?
Le message envoyé par le président est clair. Continuer à placer au Conseil constitutionnel des hommes d'État avec une dimension supplémentaire. Alain Juppé, c'est l'homme du cordon sanitaire contre l'extrême droite, le principe absolu des néo-gaullistes et des chiraquiens depuis des années, le représentant d'une droite humaniste européenne. C'est la leçon tirée au plus haut niveau de l'État, alors que l'avant-garde idéologique des Gilets jaunes menace l'idée justement de l'État de droit, que l'idéologie populiste progresse partout en Europe, menace la démocratie, que les actes d'intolérance sont de plus en plus assumés. Emmanuel Macron protège l'État de droit face à un avenir incertain. Alain Juppé devient gardien de la Constitution aux côtés de Laurent Fabius parce que face au vent mauvais qui souffle sur le pays, Juppé a toujours été droit dans ses votes.
Merci beaucoup Mickaël Darmon pour cet éclairage.
Et David, deux autres responsables politiques vont faire leur entrée au Conseil constitutionnel.
Oui, l'ancien ministre Jacques Mézard, nommé par Emmanuel Macron, et le sénateur d'hiver droite du Cher, François Pillet, choix du président du Sénat, Gérard Larcher. Une petite pique de la part d'un Premier ministre à l'endroit de son président, cela peut arriver. Interrogé hier soir sur LCI au sujet des petites phrases d'Emmanuel Macron qui ont pu choquer, comme « traverser la rue » ou « les Gaulois réfractaires », Édouard Philippe a répondu, je cite « moi, j'essaye de faire toujours très attention à la façon dont je m'exprime ».
Et puis ce 14 février est aussi une triste commémoration, celle de la tuerie dans le lycée de Parkland en Floride.
Oui, 17 adolescents avaient été abattus il y a un an par un ancien élève. Un an plus tard, donc, le danger des armes à feu est toujours là, au point que de plus en plus de parents choisissent d'équiper leurs enfants avec des sacs à dos, gilets pare-balles. Reportage de notre correspondant aux États-Unis, Xavier Yvon.
C'est un sac à dos noir d'apparence classique, mais quand Damien Ross, son concepteur, tire sur les deux lanières aux épaules, en une seconde, un panneau pare-balle vient se coller à sa poitrine. Il y a le même à l'intérieur du sac pour le dos. D'un coup, vous portez un gilet comme les militaires, explique Damien, qui a lui-même testé tous les calibres sur ses sacs à dos. Les seuls, dit-il, qui résistent aux balles de fusil d'assaut comme celui utilisé en Floride l'an dernier. On a plus de demandes quand il y a des fusillades, reconnaît Damien. Et en particulier après Parkland, sa propre nièce est une rescapée de ce lycée. Et si cela ne tenait qu'à lui, tous les élèves américains porteraient un sac à dos pare-balles.
C'est une solution pour un problème immédiat. S'il pleut, vous prenez un parapluie. Sur le moment, vous vous souciez de ne pas être mouillé. On s'occupera plus tard de ce qui cause la pluie. Ça n'arrêterait pas le problème, mais ça aide. Qu'est-ce qu'on fait après? Je ne sais pas. C'est pas mon boulot. Je ne suis pas un expert du contrôle des armes à feu.
Damien vend ses sacs à dos entre 500 et 900 dollars. Parmi ses acheteurs, de nombreux adultes qui l'utilisent pour aller au bureau, autre lieu où les fusillades sont de plus en plus fréquentes et meurtrières. Saddle River, New Jersey, Xavier Yvon, Europe 1.
David Doucan, vous nous aviez promis de nous emmener au théâtre.
Oui, Lambert Wilson interprète en ce moment le Misanthrope à Paris. La première représentation avait lieu hier soir au Théâtre Libre, anciennement la Comédia, Thierry Geffrotin.
C'est peut-être pour vous un mauvais souvenir de collège ou de lycée. Oubliez ce Molière scolaire. Avec Lambert Wilson en Misanthrope, vous allez vous régaler.
Je veux qu'on soit sincère et qu'un homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur.
Ce qui est formidable, c'est qu'il faut être très mobile dans ses émotions, passer de l'exaltation suprême à l'abattement le plus noir, des larmes à l'ironie, c'est génial.
Vous êtes presque convaincu, mais vous allez encore me dire « Ah, il y a les alexandrins, les vers, les rimes, c'est vieux !» Pas du tout, répond Lambert Wilson.
Peter Stein, notre metteur en scène, a été très spécifique. Il voulait que cet alexandrin fût compréhensible par le public. Il nous a fait sortir des mots pour que la phrase soit très 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 bien construite et évidente pour une oreille moderne, ce qui n'est pas facile. Et je pense qu'il nous a aidé à clarifier tout ça, oui.
Reste le sujet de la pièce. Évident, me direz-vous, c'est un homme qui déteste tous ses semblables. Eh bien non, c'est surtout une histoire d'amour. Le misanthrope est jaloux et comme le dit si joliment Molière, il a le chagrin bourru.
Thierry Geffrotin du service culture d'Europe 1.
Avez-vous remarqué que Molière est toujours d'actualité, plus que jamais? On parlait effectivement du misanthrope avec Lambert Wilson. En ce moment, Daniel Auteuil joue le malade imaginaire. Molière, Jean-Baptiste Poquelin. Merci, David Doucan. C'est votre pseudonyme, David Doucan?
Non, c'est un vrai nom.
Non, je suis sûr que c'est un pseudo.
Non, c'est
on va chercher.
Nom.
Le journal de 8h avec David tous à les demain. Jours.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
Il est 8h13, coup d'œil à l'actualité internationale avec Vincent Hervouet, Nikos.
Vincent Hervouet, on va zoomer ce matin, on va faire un zoom
sur Haïti, l'un des pays les plus pauvres de la planète. Et voilà l'ambiance depuis quelques jours. Écoutez bien. Scène de violence, manifestation contre la pauvreté, les Haïtiens n'en peuvent plus et ils demandent le départ du président Jovenel Moïse.
Oui, sur les barricades ou calfeutrés chez eux, les Haïtiens se demandent combien de temps va tenir Jovenel Moïse, le président. Quand va-t-il jeter l'éponge ? Alors cette île en panne, ça rappelle la chute de Duvalier. Au bout de 8 jours de grève générale, le président à vie s'était enfui. C'était un 7 février, c'est maintenant la fête nationale. Et cette année, les manifs ont commencé ce jour-là. L'histoire bégaye. Haïti, première république noire au monde, aligne depuis 2 siècles une collection de satrapes au pouvoir. Mais désormais, ils se font élire. Très mal. La participation est dérisoire. Puis, ils s'autodétruisent. En 2 ans, ils sont essorés, un bon acheté. Et Jovenel Moïse avait un slogan de campagne. Il promettait de mettre à manger dans les assiettes et de l'argent dans les poches. Eh bien, les Haïtiens sont restés sur leur faim. Et ils sont devenus enragés en découvrant que leur président s'en était mis plein les poches.
C'est le scandale pétro-caribé. Ce sont 2 milliards et demi de dollars qui sont volatilisé dans la
vie. C'est l'aide que versait le Venezuela d'Hugo Chavez pour financer des programmes sociaux. Et la Cour des comptes vient d'établir que cette aide avait été gaspillée par les gouvernements successifs depuis 10 ans. D'anciens ministres, des hauts fonctionnaires, des entreprises en ont profité, notamment celles que dirigeait Jovenel Moïse avant d'être élu. Un contrat sans appel d'offres et une route qui a été payée 4 fois. Transparency International classe Haïti au 161e rang sur 180 pour la corruption. Les Haïtiens n'attendent rien de leur classe politique. Quand ils ne sont pas contents, ils n'enfilent pas de gilets jaunes. Ils prennent leur machette et ils bloquent le carrefour. Ils crient contre les nantis, contre les métis, ceux qui vivent au frais sur les hauteurs de Port-au-Prince. Ils mettent en grève un pays qui est plein de chômeurs, ils obligent à jeûner des gens qui ont faim toute l'année. Alors depuis une semaine, des prisonniers sont évadés, la police a tué des manifestants, des magasins sont pillés, l'électricité est coupée, l'essence commence à manquer, on manque surtout d'espoir. La rue, les sénateurs, les ministres, l'église, le patronat réclament le départ du président. C'est une révolution, mais à quoi bon quand l'État est si faible ? Jovenel Moïse se tait et se cache, pas un mot depuis 8 jours. Il attend sans doute que la France ou les Américains lui envoient un avion. Pour s'enfuir, il évitera de prendre la route. Elle ne mène nulle part.
Vincent Hervouette, comme une photographie de ce qui se passe à l'autre bout du monde et si près de chez nous aussi.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Dans 2 minutes, Audrey Crespo-Mara arrive avec son interview politique. Bonjour Audrey.
Bonjour Nikos, bonjour à tous. Il veut impliquer les jeunes dans le grand débat et dans le service national universel qui reste encore un peu flou pour tout le monde. Le permis de conduire si cher aux jeunes sera-t-il intégré au service national universel ? Sera-t-il donc gratuit ? Eh bien Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, sera mon invité.
A tout de suite, on a hâte de vous écouter.
Il est 8h18, Nikos Aliagas.
Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Gabriel Attal, et votre invité, Audrey Crespo-Mara.
Bonjour Gabriel Attal.
Bonjour.
Vous n'avez pas encore 30 ans, ce qui fait que vous appartenez à une génération qui n'a pas fait son service militaire. Ça vous manque ?
Je pense qu'il manque un moment, effectivement, de brassage social, de creuset républicain. On apprend un certain nombre de choses, les risques ont évolué, on n'a plus besoin d'apprendre à toute une génération à manier les armes. Mais oui, je pense qu'il manque un moment.
Alors vous êtes en charge de l'organisation du service national universel qui sera testé dans 13 départements au mois de juin. Ça ressemble de loin au service militaire, sauf que ça concerne nos enfants dès la fin de la troisième, quand ils viennent juste de quitter le collège. C'est jeune.
Dès la fin de la seconde, donc c'est après le collège.
Il y a fin de seconde.
Ouais, fin de seconde. Il y a plusieurs différences avec le service militaire. D'abord, ça concerne tout le monde, c'est-à-dire aussi les femmes, les filles qui n'étaient pas concernées par le service militaire. Ensuite, encore une fois, l'objectif n'est pas d'apprendre à toute une génération à manier les armes. L'armée s'est professionnalisée, on a moins de risques ou des risques différents.
C'est 15 jours ?
C'est 2 fois 15 jours. 15 jours d'abord en internat, en mobilité, c'est-à-dire que les jeunes ne feront pas leur service national dans leur département, dans leur région, mais dans une autre. Et puis avec un
Pourquoi les éloigner ?
Parce que c'est important pour élargir le champ des possibles des jeunes, pour leur faire découvrir un autre territoire, d'autres opportunités économiques, d'autres opportunités de formation, faire tomber un certain nombre de stéréotypes. Il y aura un certain nombre de formations, des formations sur les questions de sécurité, comment réagir face à un attentat terroriste, comment se protéger, Comment réagir face à une catastrophe naturelle, intégrer un poste de secours? Comment réagir face à une disparition en organisant une battue pour retrouver la personne disparue? Ces réflexes-là, les jeunes ont envie de les avoir, on va les former. Et puis, des formations sur la question des institutions, des valeurs de la République, des formations sur les éco-gestes, et puis des bilans aussi. Bilan de santé complet pour tous les jeunes, bilan de maîtrise de la langue française, bilan point d'étape pour savoir où en sont les jeunes dans leur insertion. C'est tout ça qui va être proposé.
À partir de quelle date ce sera obligatoire, le service national universel ?
Alors, on travaille sur le calendrier. Il y a un rapport qui propose une généralisation en 2026. Moi, j'ai demandé qu'on regarde pour aller plus vite. Donc, on ira probablement plus vite.
Alors, Gabriel Attal, Emmanuel Macron envisagerait d'intégrer l'examen du permis de conduire dans le cadre du service national universel. Qu'en est-il réellement ?
Oui, c'est absolument ce sur quoi on travaille. Et d'ailleurs, dans la nostalgie qu'on entend parfois du service militaire, on entend souvent « au moins ça permettait d'avoir le permis ». Dès la phase pilote de juin prochain, les jeunes qui seront volontaires pour cette phase pilote du service national auront leur code de la route gratuitement. C'est ce qu'on va leur proposer dans le cadre de cette phase pilote. Donc c'est un plus très important. Moi, je suis aussi ministre en charge de la jeunesse et la mobilité, c'est un frein énorme pour des jeunes, pour aller saisir un apprentissage, un emploi, une opportunité. Et le permis de la route, le permis de conduire, c'est parfois un coût trop important pour certains jeunes. L'idée, c'est de faire en sorte qu'il coûte moins. Il y a un rapport qui a été remis sur ce sujet. On va travailler aussi avec les auto-écoles, évidemment. Mais on veut élargir le champ des possibles des jeunes en leur permettant de bouger. Et pour ça, il faut les aider à avoir le permis moins cher.
Donc, rendre le code de la route gratuit, c'est un cadeau de l'État pour que la corvée du service national universel soit mieux acceptée ?
Non, encore une fois, moi, je ne vois pas ça comme un cadeau. C'est un outil au service de la mobilité des jeunes. C'est un drame aujourd'hui.
Gratuité, c'est un cadeau.
Vous avez des centaines de milliers de jeunes qui naissent chaque année dans des territoires, dans des quartiers, et qui n'ont que ce territoire ou ce quartier comme horizon pendant plusieurs décennies, et qui choisissent leur formation, leur possibilité d'insertion dans le scope unique de ce quartier-là. Nous, ce qu'on veut, c'est élargir le champ des possibles, montrer qu'il y a d'autres choses sur le territoire, qu'il y a plein d'opportunités, et pour ça, il faut qu'ils puissent bouger.
Et est-ce que vous êtes favorable au permis dès l'âge de 17 ans, donc ?
Ça fait partie des propositions qu'on regarde. Moi, je n'y vois pas d'opposition de principe. On va regarder à partir du rapport qui a été remis par Françoise Dumas.
Gabriel Attal, dans les débats, la moyenne d'âge est assez élevée. Vous croyez que les jeunes sont intéressés de participer à des débats sur la réindexation des retraites et ses conséquences sur le déficit public ?
Alors, quand le grand débat a été lancé, moi qui suis en charge de la jeunesse, tout de suite, j'ai senti le truc. J'ai senti que si on ne se mobilisait pas particulièrement, les jeunes ne se déplaceraient pas dans des réunions et qu'il fallait organiser un cadre spécifique pour les jeunes. Ouais, c'était le cas au début. On a organisé un cadre spécifique. On a mobilisé les MJC. On a mobilisé des réseaux associatifs de jeunes. AnimaFac, la jeune chambre économique, les maisons des lycéens, pour qu'ils organisent des débats pour les jeunes. On a fait plusieurs débats avec le Premier ministre, avec le Président de la République, avec les jeunes. Et de quoi on se rend compte ? Un, que les jeunes, ils ont envie de participer, pour peu qu'on organise un cadre qui leur permette de le faire. Parce que se retrouver dans une salle en mairie avec des gens qui ont toute une expérience, tout un vécu, ça peut être un peu intimidant pour s'exprimer quand on n'a pas la même expérience et le même vécu.
Vous animerez-vous d'autres débats ?
Oui, mercredi prochain, pardon, le 20, avec Marlène Schiappa, on va animer un débat avec jusqu'à 1000 jeunes, qui sont des jeunes en service civique, qui vont venir débattre avec nous.
Marlène Schiappa, est-ce que vous pourriez vous rendre, comme elle, dans l'émission de Cyril Hanouna pour toucher des jeunes, justement ?
Moi, j'ai aucun tabou. Et d'ailleurs, Cyril Hanouna m'a dit qu'il était intéressé à l'idée d'organiser une émission sur le service national universel. Et dans ce contexte-là, évidemment, je serai présent si c'est le cas.
Gabriel Attal, selon Paris Match, le nombre de Français qui soutiennent l'action du président a augmenté de 11 points en 2 mois. C'est l'effet de la campagne qu'il mène actuellement à travers la France ou la politique de fermeté à l'égard des manifestants et des casseurs ?
Il n'y a pas de campagne.
Oh, bah, c'est un peu
comme... Il y a un dialogue avec les Français. Moi, je suis étonné. Parfois, on nous dit le président, on ne le voit pas assez discuter avec les Français. Est-ce qu'il est déconnecté ? Et puis, quand il échange directement, sans tabou, en éludant aucune question avec les Français, on explique que c'est une campagne. Il est juste connecté au pays. Il le fait avec des élus, il le fait avec des citoyens, il le fait avec des jeunes. Il va le faire aujourd'hui avec encore des élus et puis le monde économique.
Sa popularité remonte.
Dans l'Indre. Je pense que c'était attendu par les Français. C'est important qu'ils le fassent.
Un sondage paru hier annonce que 56% des Français estiment que la mobilisation des Gilets jaunes doit s'arrêter. C'est la conséquence des débordements de violence autour des manifestations ?
Moi, je pense qu'un grand nombre de Français en ont ras-le-bol. Ras-le-bol de cette mobilisation, de ces dérives. Moi, honnêtement, quand on regarde la mobilisation des Gilets jaunes le 17 novembre, on voit bien les mots d'ordre. On voit bien les questions de mobilité, les questions de pouvoir d'achat, les questions de ruralité. D'ailleurs, on les a entendues, on a apporté... Une première réponse, 10 milliards d'euros de pouvoir d'achat annoncé par le président de la République. On va en annoncer d'autres après le grand débat. aujourd'hui, dans les manifestations, dans les mobilisations, qu'est-ce qu'on voit à part les violences? Moi, je ne vois plus les mots d'ordre. Je ne les vois plus, à part la contestation du pouvoir ou la contestation des institutions de la République.
Donc ce ras-le-bol des Français, vous le partagez?
Ah, je le partage totalement, oui. Et c'est le ras-le-bol aussi des commerçants qui ne peuvent plus exercer dans de bonnes conditions le week-end. C'est le ras-le-bol des salariés qui ont parfois été mis au chômage partiel ou au chômage technique parce qu'il y a une baisse d'activité dans leur, commerce ou dans leur PME. Ça devient insupportable pour beaucoup de Français. Donc je comprends parfaitement, moi, qu'il y ait un agacement.
Alors l'opinion se retourne, mais suffira-t-il de demander aux Gilets jaunes de s'arrêter pour qu'ils le fassent?
Moi, je suis attaché au droit constitutionnel de manifester. Si des gens ont envie de manifester, qu'ils le fassent, pour peu qu'ils respectent les règles, déclarer sa manifestation. On voit que c'est quand même une règle qui s'est un peu perdue. Et ensuite, ne pas être coupable ou couvrir des violences, des dégradations, des attaques. C'est quand même ça qu'on a vu. On a vu des attaques d'institutions, on a vu des attaques de forces de l'ordre. Et moi, je considère que quand on ne dénonce pas, on couvre.
Donc, mais l'opinion moi, qui que... se retourne, est-ce que vous pensez que c'est la fin des Gilets jaunes?
Moi, je dirais pas ça. Je suis pas Madame Irma et je suis pas là pour tirer des plans sur la comète. Il y a un sujet de fond. Encore une fois, il y a des sujets de fond, notamment des sujets de mobilité, des sujets de services publics, des sujets de pouvoir d'achat. On est en train de les traiter avec le grand débat national.
Il y aura une réponse. Il
y aura une réponse politique qui sera faite par le président de la République à l'issue de ce débat.
Merci Gabriel Attal.
Merci.
L'interview politique avec Audrey Crespo-Barat tous les jours à 8h15 sur Europe 1.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Dans un instant, on va faire, Céline Dacosta, un petit point avec Laurent Cabrol sur la météo. Ouais. Le soleil est de retour à 8h30 sur l'essentiel de l'info. Fin de vol pour l'A380. Airbus annonce l'arrêt des livraisons de son géant des airs pour 2021. Vous entendrez l'émotion des salariés de l'usine de Blagnac, près de Toulouse. À tout de suite.
À suivre dans la prochaine demi-heure, Nikos.
David Abiker, la revue de presse, l'homme qui lit tout dès 2h du matin.
Bonjour Céline, bonjour Nikos. Bonjour. Ce matin, je vais vous parler d'histoire d'amour qui se termine, celle de Juppé avec Bordeaux, mais aussi celle de l'A380. Et puis, il y a plein d'autres histoires d'amour, parce qu'aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin.
On a hâte de vous écouter pour la revue de presse. À 8h40, il y aura l'autre revue, la revue de presque.
Avec Nicolas Canteloup.
C'est pas du French Cancan. Hein.
Non, mais ça pourrait y ressembler. Mais tout de suite, Rénoval vous présente la météo. Profitez d'un temps toujours clément avec Rénoval, véranda et abri de piscine. La météo, c'est avec notre Laurent Cabrol.
Je vous ferai du soleil et du soleil partout.
Vous allez finir en homme politique, oui. Attention.
Bon, alors, le soleil est là, chers amis. Je n'ai pas suffisamment insisté sur le vent qui souffle dans le Languedoc-Roussillon. Seulement dans le Languedoc-Roussillon, c'est le vent marin, donc c'est un vent d'OTAN. Il souffle du vent modérément, entre 50 et 60 km/h, mais enfin, il est là. Je regardais à l'instant les températures du petit matin. Depuis pratiquement 7 heures, je vous annonce du moins 5 à plus 5. Et bien, ça n'a pratiquement pas bougé. Hein. Ça n'a pas bougé. Nous sommes toujours entre moins 5 et plus 5, à 1 degré près. Mais ça a du mal à monter, hein, les températures. Dans la journée, nous aurons du 11 degrés à Dijon, du 11 degrés à Strasbourg, Lille, Caen, Cambrai, Rennes, Mâcon, Paris, 13 degrés, 13 à Épinal, 14 degrés à Nantes, à Poitiers et Bourges, 15 à Marseille, à Toulouse, à Lyon, à Montélimar et Limoges, 16 degrés à Bordeaux et du 18-19 au Pays Basque. En fait, c'est... Ah non, tiens, les deux températures, je rappelle, Saint-Amour et Saint-Valentin, quand même, c'est la fête aujourd'hui, entre 14 et 15 degrés dans les deux villes que nous allons réunir pour l'occasion. En ce qui concerne, tenez, la fête de la Saint-Valentin, justement, au XIVe siècle, on a instauré la Saint-Valentin, je vous disais tout à l'heure l'histoire
du martyr.
Mais là, au XIVe siècle, on a changé de version, et la Saint-Valentin, c'est la période à partir de laquelle les oiseaux s'accouplent. Et c'est la raison pour laquelle on a choisi cette date comme étant la fête des amoureux.
Regardez bien les branches aujourd'hui. Observez bien ce qui se passe dans les branches. En gros, c'est ça. Hein. Merci.
Merci, ma vieille branche. Alors, en ce qui concerne... sur ce qui concerne la suite, j'étais un petit peu pessimiste tout à l'heure en disant qu'à partir de dimanche, eh bien, ça allait se gâter. C'est vrai, ça ne sera plus aussi clair et aussi limpide qu'en ce moment, mais il ne faut pas exagérer. Ce sera un peu moins beau. Et la semaine suivante, en principe, le beau temps va repartir à partir de jeudi.
Merci Laurent Cabrol. On vous retrouve avant 9h pour un autre point météo.
Nous sommes le jeudi 14 février. Toute l'actualité à 8h30 avec vous, Nikos Aliagas.
C'est fini pour l'A380. Airbus annonce l'arrêt de la production du plus gros avion du monde. La compagnie Emirates a en effet réduit ses commandes. Écoutez la réaction de Françoise Valin, déléguée syndicale CFE-CGC chez Airbus.
On avait bien conscience que la compagnie Emirates était vraiment la compagnie qui faisait tenir ce programme. Donc, on savait très bien que le programme tenait qu'à un fil. C'est vrai que c'est un gâchis quand on voit cet avion, parce que c'est un avion qui est plébiscité par les passagers. Ça me rappellera, en tout cas personnellement, de très mauvais souvenirs, comme cette dernière journée où j'ai vu arriver un Concorde, en se disant que ce Concorde venait atterrir à Toulouse pour la dernière fois. C'était exactement ce même sentiment-là.
Propos recueillis par Benjamin Peter. Dernière livraison en 2021 et selon Airbus, 3000 à 3500 postes pourraient être affectés par cette décision lors des trois prochaines années. Baisse du taux de chômage au dernier trimestre de 2018, moins 0,3 points, soit 8,8% de la population active. C'est son plus bas niveau depuis 2009. Alain Juppé prend la parole en fin de matinée pour expliquer les raisons de son choix. Le maire de Bordeaux a accepté hier de quitter la ville et de rejoindre le Conseil constitutionnel. Il a déjeuné hier avec le président de la République, Emmanuel Macron. Information Europe 1, Stéphane Place. Un an de prison ferme pour l'ex-boxeur Christophe Détinger, peine en semi-liberté qui lui permettra de continuer à travailler. Et le soir, il entrera en prison. Début janvier, il avait violemment frappé deux gendarmes lors d'une manifestation de gilets jaunes. Journée cruciale pour la réforme de l'assurance chômage. Le patronat présente ses propositions contre la multiplication des contrats courts. Faute d'accord avec les syndicats, le gouvernement mettra en place le bonus-malus promis par Emmanuel Macron. Le chef de l'État, d'ailleurs, attendu à 11h dans l'Indre, 7e étape du grand débat. Pas d'échange marathon dans une salle. Il passera la matinée dans le village de Gargilès-Dampierre où il rencontrera notamment une trentaine d'élus du département. Un mot de football, deux matchs en retard de la Ligue 1 hier soir. Victoire de Saint-Etienne sur Strasbourg 2-1 et de Nantes à Caen 1-0.
Europe 1. Nico Saliagas, tout de suite on retrouve David Abicaire pour sa revue de presse.
Bonjour David Abicaire. À la une de la presse
Nikos.
Ce matin, des histoires d'amour mais aussi des histoires de haine.
Ben oui, on va commencer par une histoire d'amour qui se termine, celle d'un maire avec sa ville, ce maire qui avait la tentation de Venise mais qui est devenu maire de Bordeaux. C'est à la une, évidemment, du journal Sud-Ouest. C'est peut-être Sud-Ouest qu'il faut lire aujourd'hui si on veut connaître les coulisses d'une décision prise par le maire de Bordeaux sur une idée originale du président de l'Assemblée, Richard Ferrand, qui a surpris son monde. Il a surpris tout le monde, Richard Ferrand. C'est peut-être même lui le plus heureux de son casting. Juppé lui-même ne s'attendait pas à la proposition. Elle a aussi surpris le président de la République et son premier ministre, qui n'étaient pas du tout certains que Juppé accepte. On savait que ce moment arriverait, confie Gilles Boyer à Sud-Ouest. Gilles Boyer, c'est l'ancien directeur de cabinet de Juppé, mais il vaut mieux partir quelques mois trop tôt plutôt que quelques années trop tard. Voilà une formule qui peut servir en politique comme en amour. Car curieusement, ce matin et en ce jour de la Saint-Valentin, Nico, s'il y a dans la presse autant d'histoires de séparation, de dépit amoureux, voire de haine, que d'histoires d'amour.
Tout un programme. La fin de l'histoire encore, c'est celle de l'A380 qui a déjà son cimetière.
Eh ouais, on achève bien les jumbos. Titre ce matin, Libération qui a eu le nez creux. C'était pas gagné que ce soit annoncé aujourd'hui. Libération qui raconte l'échec commercial du gros porteur 12 ans après seulement sa mise en service. Et donc, même les avions ont leur cimetière, écrit le quotidien. Celui de l'A380 est situé en bordure de l'aéroport de Tarbes, dans un espace spécialement aménagé où vous avez 4 A380 qui ont pris une retraite anticipée après 10 ans d'exploitation par la compagnie Singapore Airlines. Deux attendent un improbable client à la recherche d'un avion d'occasion, ça existe. Et puis les deux autres, nous dit Libération, vont être découpés en rondelles, c'est un peu triste. L'histoire avait pourtant bien commencé, explique Libé. Il y avait un marché, un défi à relever face à Boeing. Hélas, il y a eu la crise financière de 2008, le retournement du marché. Ce fichu Boeing 777 qui a la peau dure et qui consomme moins de carburant. Airbus en aura vendu quand même 313 sur les 400 prévus et estime que l'avion aura coûté quand même 10 milliards de pertes aux constructeurs. C'est le calcul de Libération. Mais le bilan n'est pas mauvais. Vous savez, quand une histoire s'arrête, on essaye de garder les meilleurs moments. Le bilan n'est pas mauvais, indique un connaisseur du marché d'Airbus. S'il n'y avait pas eu l'A380, dit-il, Airbus n'aurait pas fait de tels sauts technologiques et n'aurait pas conquis 50% du marché des avions de plus de 100 places.
Des histoires qui s'arrêtent donc, cher David Abicaire, et d'autres qui trouvent leur conclusion, leur fin judiciaire.
Alors ce matin, on lit à l'Obs le compte-rendu du procès de l'ex-boxeur Christophe Détinger, et on comprendra que les images vidéo, qui ont l'air si nettes comme ça quand on les regarde sur nos écrans, elles peuvent laisser un magistrat perplexe. Que les excuses et les remords peuvent également payer lors d'un procès comme celui-là. L'Obs livre évidemment les moments forts du procès, comme cet échange entre le prévenu et la présidente. Je vous les lis parce que ça vous donnera envie d'aller lire le compte-rendu du procès sur le site de l'Obs qui est très bien fait. Alors voilà ce que dit la présidente. Pourquoi vous avez avancé avec l'intention de porter des coups aux gendarmes en face de vous. » Et le prévenu répond « Si j'étais remonté les mains dans les poches, j'aurais pris deux coups de matraque dans la tête. Mais pourquoi faire demi-tour? Pourquoi ne pas faire demi-tour ?» On lui demande « Comme vous le demandez, les forces de l'ordre. » Et le prévenu répond « Désolé, si on devait écouter à chaque fois la police, tous les gilets jaunes resteraient chez eux. » Vous voyez les minutes des procès, la façon dont c'est raconté dans la presse, c'est toujours intéressant. Un an de prison ferme, la décision de justice est aujourd'hui largement commentée sur Twitter avec d'un côté ceux qui estiment que tout cela est cher payé, qui se demandent pourquoi la justice n'est pas aussi rapide avec un Benalla ou pourquoi elle n'est pas aussi zélée pour condamner les bavures policières. Et puis de l'autre côté, il y a ceux plus discrets qui s'interrogent sur la semi-liberté dont va bénéficier Christophe Détinger et ils interrogent la clémence d'une justice envers celui qui a quand même porté de tels coups sur des représentants de l'ordre. Alors Saint-Valentin oblige, j'aurais pu vous parler de tous ces quotidiens qui font la une sur la fête plus ou moins réussie des amoureux. Dans le Midi Libre, vous avez Oriane et Jérémy, nés le même jour dans le même hôpital et qui se marieront dans un an. Dans le
Mais
Parisien,
pas de même parent.
Oui, pas de même parent, bah oui, il faut espérer. Dans le Parisien, la thérapie contre les chagrins d'amour, on en a parlé sur Europe 1, qui mélange pilule contre la migraine et accompagnement psychologique. Léonie et Marie, qui dans l'Union racontent leurs pires histoires de Saint-Valentin quand elles virent au cauchemar. Mais la une la plus mignonne, celle qui m'a touché moi, elle est sur Wamiz, le site spécialisé dans l'actualité des animaux domestiques. Ah oui, oui. Wamiz propose cette enquête assez rigolote sur notre vie amoureuse quand elle est influencée par les animaux de compagnie. Et je ne donnerai qu'un chiffre. 62% des hommes expliquent avoir dragué plus facilement grâce à leur chien. Les hommes vont croire qu'ils s'en tirent mieux que les femmes, qui ne sont que 32% dans ce cas-là. Mais non, c'est tout simplement les chiens qui ont souvent plus de talent que leur maître. Il suffit de revoir les seins dalmatiens.
Et vous n'êtes pas cynique, puisqu'on parle de vie de chien. La revue de presse tous les jours avec David Abiker.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Il n'est pas cynique, il est drôle. Ah, il secoue un peu, il est immanquable, il est insortable. C'est Nicolas Canteloup et sa revue de presse qu'il arrive.
Et les 8h39, à tout de suite sur Europe 1. Il est 8h41.
Le vrai Valentino de cette rédaction, c'est évidemment Nicolas Canteloup. C'est le seul qui puisse faire rire les filles toute l'année. N'est-ce pas, Julie?
Oh oui. C'est presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Canteloup. Et on commence, mon cher Nikos, avec vous pour le titre principal de l'actu, comme chaque
jour. Oui, salut les Valentino. Salut, ma chère Julie. L'actu principale de ce morning, ça va vous surprendre, mais elle nous vient se rendre, je l'ai dit à l'instant, c'est la Saint-Valentin.
Oui.
Ce soir, ça va être romantique, soirée romantique pour tout le monde, sauf pour moi, apparemment. Céline Kalman m'a mis un râteau tout à l'heure. Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre à l'instant, vous avez vu, je lui demande si elle me regarde à la télé, elle m'arrête du pendu, non.
Non.
Voilà. C'est classe. Dans la marque du râteau, Julie, là, oui.
Sur le front, oui, marque de râteau.
Oui, j'ai pris le râteau. C'est à cause de mon t-shirt moche. Car, chers auditeurs, il faut vous le dire, ce matin, je suis en t-shirt. Il fait 40 degrés
Explique
dans ce studio.
Pourquoi.
La clim est cassée, j'ai un peu chaud. On est le plus bleu. Je crois qu'on vient de l'inventer. On est dans le premier studio radio Hammam de France.
C'est vrai.
Pour une matinale Saint-Valentin élégante qui va bientôt finir présentée en slip. Ce soir donc, ça va être soirée romantique pour chacun de nous.
Bah oui.
Ah oui, j'ai hâte.
Ah Nicolas Barré. Mais dites-nous, vous avez un rendez-vous ce soir?
Oui, Julie. J'ai prévu une petite ambiance d'ailleurs.
Ah d'accord. Waouh.
Hey. Et oui, ce soir c'est pour moi aussi une soirée romantique. J'ai prévu un petit dîner à base de knacki et de purée de céleri. Je vous dis tout, puisque vous êtes mes camarades, je passe la nuit avec Apolline de Malherbe.
Ah bon ?
Oui, enfin plus exactement, je vais regarder BFM Business jusqu'à 22h30. C'est Apolline de Malherbe qui est la présentatrice de BFM Business. Des posters d'Apolline dans ma chambre.
Ah, oui,
entre celui de Jean-Pierre Gaillard et celui d'El Mouchpif. À minuit, on savait quoi?
Alors, à minuit, oui.
Je sors le shampoing. Je vais être coquin jusqu'au bout. Hein. Je vais prendre un bain moussant dans mon bidet. Avec des bougies sur le rebord. Si elles arrivent à tenir, je vais prendre des petites bougies d'anniversaire. En faisant le bilan comptable des échos, ça va être une chouette soirée.
Oh bah oui, on aimerait être là. Et on aimerait surtout être une petite souris. Hein. Amusez-vous bien, Nicolas, ce soir.
Merci.
Avec Apolline de Malherbe. Mon Dieu. Allez, l'actu dont tout le monde parle ce matin, c'est bien sûr le départ d'Alain Juppé de la mairie de Bordeaux.
Obsèques rapido, bonjour.
Bonjour Frédéric Mitterrand.
Obsèques rapido, c'est votre oraison funèbre livrée en moins de 30 minutes. Qui aurait cru cela? Alain Juppé qui nous quitte? Allez, tant pis, musique. Tu es parti, Alain Juppé. Tu as rejoint le paradis des hommes politiques. Ta disparition tragique, meurtrie, bordelaise et bordelaise. De là où tu es, tu nous regardes désormais
non, attendez,
avec ce...
Et attendez, Frédéric, mais il n'est pas mort, hein, Alain Juppé, non.
Quoi, comment ça?
Bah non, il entre au Conseil constitutionnel.
Oui, mais c'est un peu pareil, non?
Bon.
Allez.
Quand même.
Alain Juppé, deuxième au Conseil constitutionnel. C'est parti, 3-4. Tu es au Conseil constitutionnel, Alain Juppé. Tu as rejoint le paradis des hommes politiques. Ta disparition tragique, meurtrie, bordelaise et bordelaise. De là où tu es, tu nous regardes désormais et tu... Ben oui, vous avez vu, c'est pratique, j'ai même pas besoin de modifier une seule virgule.
Oui, on l'a entendu. Oui, bon, on va vous laisser, je crois. C'est pas très sérieux ce matin, Frédéric. On va plutôt en parler avec le principal intéressé. Bonjour, monsieur Juppé.
Oui, bonjour. Bonjour à tous.
Bonjour.
Écoutez, bonjour à votre sympathique équipe, tout à fait. Je vous sens taquin ce matin. Très, très amusant cette intervention de Frédéric Mitterrand. Un peu décalé. Vous avez envie de me mettre en boîte, hein, ce matin.
Boîte
de sapin, en sapin, c'est ça, hein. Non, écoutez, j'aime l'humour. Toutefois, sachez, je ne m'enterre nullement au Conseil constitutionnel.
Ah bon?
Bah, évidemment. Pourquoi aller au Conseil constitutionnel, puisque c'est la question que vous posez et
oui.
que Stéphane
ça a été une surprise,
pose
ah oui,
à travers
oui, oui.
son intervention à tous les bords de l'Ébien. D'abord parce qu'il n'y a pas besoin d'être élu. C'est une nomination, donc ça m'évite une branlée. J'ai une certitude de ne pas vivre une déroute électorale. Ensuite, parce que je sentais qu'il fallait, oui, quelque part, tourner la page bordelaise. Tout à fait, oui.
Vous ressentiez une certaine lassitude?
Oui, c'est bien d'avoir noté cette phrase de relance que vous aviez oubliée, ma chère.
J'étais sur un autre paragraphe.
Vous étiez en train de me faire une Aliagas face à David Doucan. Oui, tout à fait.
Désolé.
Oui,
alors,
tout à fait. L'avant-veille, écoutez.
Bon, alors, dites-moi. La lassitude,
elle existe. L'avant-veille du 14e samedi de Bordel à Bordeaux,
oui.
J'ai senti poindre, comment vous dire, un léger sentiment de lassitude.
Voilà,
oui.
C'est ce que je voulais dire.
Alors, soyons francs, autant les 10 premiers samedis, j'ai trouvé ça extrêmement amusant de me faire cramer la mairie, défoncer les abribus et éclater les monuments historiques. Et puis c'est bizarre, on vous pisse sur les pompes une fois, c'est hilarant, et puis allez savoir pourquoi, à la 13e fois, on rit un peu moins. Hein, le gars que s'use... Jean-Michel Lapati me comprend, il a fait 734 chroniques sur les gilets jaunes.
Bah donc vous partez. Hein, c'est
voilà,
ça.
Je quitte voilà. Bordeaux le jour de la Saint-Valentin pour faire Shabadabada avec le Conseil constitutionnel. Voilà, c'est la vie. J'aimerais d'ailleurs avoir un mot sympathique pour les gilets jaunes.
Ah. Allez-y.
Oui, mais enfin, j'en ai pas trouvé. Donc je citerai celui qui est désormais mon acteur préféré, François Berléand.
Ah,
et je vous
oui.
dis, cher gilet jaune, vous commencez à me faire chier. Voilà. Pas mieux.
Eh bien, merci, monsieur Juppé. Et bonne chance pour la suite, alors. Hein.
Je vous en prie.
La démission du maire de Bordeaux fait réagir tous les éditorialistes. François-Olivier Gisbert, vous êtes chroniqueur politique. Qu'est-ce que vous pensez de ce choix?
Bah écoutez, qu'est-ce que je pense de ce choix, je vais vous le dire. Tout d'abord, bonjour. Bonjour Julie. Bonjour à tous. Dans ce studio, je connais bien ce studio. J'ai l'impression d'y être né. Puis bonjour bien sûr à Jean-Michel Patti. J'espère que ça ne t'ennuie pas, que je viens de donner mon avis dans un micro où d'habitude tu officies toi.
Il est en régie.
Bah, écoute, n'hésite pas, Jean-Michel, n'hésite pas à donner ton avis sur l'opinion que je vais donner. À mon avis, ce sera intéressant parce que c'est toujours intéressant d'avoir l'avis d'un vrai professionnel sur l'avis qu'on peut donner aux auditeurs. C'est toujours important d'être à l'écoute. De quel avis que ce soit.
Je t'en prie, François-Olivier, vas-y, alors vraiment librement, donne ton avis. Ensuite, si je peux me permettre, je ferai une chronique dès demain sur l'édito rédigé au sujet de l'opinion que tu as eue sur mon avis, hein, à travers ton billet d'humeur dans ma rubrique.
Monsieur, s'il vous plaît, on va peut-être arrêter là. François-Olivier Gisbert, allez, à vous. Le départ de Bordeaux d'Alain Juppé, pourquoi?
Bah écoutez, Alain Juppé, tout le monde le connaît. C'est une carrière extraordinaire, une longue carrière. Il était ministre, secrétaire d'État, premier ministre, maire de Bordeaux. Arrêté, non, j'étais plus président d'un parti politique, pardonnez-moi. Et puis après tout ça, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
il ne peut plus voir nos gueules. Du coup, il va s'enterrer au conseil constitutionnel où on ne pourra plus, nous les citoyens, venir l'emmerder. C'est compréhensible. C'est un homme après tout. Voilà. Jean-Michel, qu'est-ce que tu penses tu me donnes ton avis sur cet avis, cette opinion que j'ai de Juppé.
Écoute, pour moi, c'est un très bon avis. Hein, je ne sais pas. Julie, à votre avis,
c'était parfait. Allez, vous pouvez disposer tous les deux.
C'est bien d'échanger nos avis.
L'Assemblée nationale a voté un amendement déposé par Éric Ciotti qui rend la présence du drapeau français obligatoire dans les classes. Bonjour Éric Ciotti.
Oui, bonjour.
Alors, pourquoi avoir déposé cet amendement?
Mais parce que le gouvernement n'a rien fait. Pour inculquer aux jeunes la passion d'être français, je dois tout faire moi-même, que voulez-vous que je vous dise?
C'est important pour vous, le drapeau dans les classes.
Mais bien évidemment, écoutez, je vais vous raconter quelque chose. Lorsque j'étais petit, je veux dire, quand j'étais enfant, puisque vous le savez, je fais à peu près la même taille que lorsque j'étais enfant. Bref, il y avait un drapeau dans notre classe et nous chantions la Marseillaise. Aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, concomitamment, afin de virer Macron. Voilà, c'était...
Oui, d'accord. Et donc ?
Mais ce sont des valeurs qui ont fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Et je le dis aux jeunes qui nous écoutent. Voilà, maintenant, vous avez une chance inouïe, une chance de devenir l'Éric Ciotti de demain. Et pas seulement. Vous savez, j'ai croisé une petite fille hier. Oui. Je lui ai dit, toi, tu sais quoi? Tu as une chance inouïe. Tu seras peut-être la future Nadine Morano de demain. Hein, et elle a pleuré. Je pense que c'était de la joie.
Oui, certainement.
En elle, qui est en train de monter.
Certainement. Merci, monsieur Ciotti. À bientôt. Les députés ont voté mardi un amendement disant que les mentions père et mère ont vocation à disparaître des formulaires scolaires au profit de parents 1 et parents 2.
Ah, Taillot ! Tragédie ! Mais quelle honte !
Philippe de Villiers, bonjour.
Oui, bonjour, femelle.
Oh, ça va.
Seigneur, ça s'en va enfin. On peut être délicat. Seigneur Dieu, Christ roi, ressuscité. Mais nous nageons dans le grand n'importe quoi, Mme Julie. Les enfants, désormais, n'ont plus de père et de mère. Mais un parent 1 et un parent 2, un papa et une maman. Mais qu'allons-nous manger maintenant? De la confiture bonne maman, de la confiture bonne parent 2,
hein? Oh,
non, franchement, je ne m'y ferai jamais. Et en regardant Star Wars, Dark Vador doit-il dire « Luc, je suis ton parent 1 hein » Non, Taillot.
Oh, mais vous vous alarmez un peu trop là, non, monsieur de Villiers?
Mais ce monde est malade, femelle. Qu'allons-nous chanter dans les bals populaires? Hein? Que deviendra Claude François? Écoute, parent 2 est près de toi. Il faut lui dire, parent 2, c'est quelqu'un pour toi. Quel honte, trouvons nos karaokés d'antan. Vite une hostie.
Une hostie pour Philippe Millier, vite.
Bravo Nicolas. J'en ai encore une, Nicolas.
Bravo quoi.
Ils sont venus, ils sont tous là. Elle va mourir, le parent 2.
Ah, il y en a plein, des comme ça.
Petit parent 1 Noël. Taillot. David.
Petit Papa Noël avec
ouvrez le micro de David, s'il vous plaît. Allez-y, David.
Ah bah on peut chanter Petit Papa Noël avec parent 1,
ça
parent 2.
Ça donne
quoi? Bah Petit parent 1, parent 2 Noël, quand tu descendras du ciel 1, ciel 2.
Il est fort. Jusqu'à midi comme ça, si vous voulez.
Vous êtes trop fort, Nicolas Canteloup. Philippe Cabrivière, Laurent Vassilien, Arnaud Demanche, la revue de presse tous les jours. Merci, Julie. Le tour de la question tous les matins, 9h, 11h, 2h de débat. Deux thèmes, ma chère Wendy Bouchard.
Bonjour à tous.
Bonjour. Premier thème.
Premier thème à 9h, on va s'interroger sur les hôpitaux de demain. Comment se transforment-ils en ce moment? Comment doivent-ils surtout évoluer pour faire face à la pénurie de médecins? Vous savez qu'on a 10 ans d'urgence à combler en la matière. Alors on a parlé beaucoup des hôpitaux de proximité, des centres pluridisciplinaires de santé, vous les connaissez. Mmh. On va s'interroger avec nos spécialistes et puis vous allez témoigner, vous, un peu partout en France au 39-21. Vous nous direz quelle confiance vous avez en ces établissements. Et puis c'est la Saint-Valentin, évidemment. Alors nous, on va faire un petit peu le pont sur l'histoire de la manière de s'aimer, voilà, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Vous savez que le coup de foudre, par exemple, apparaît au XVIIe siècle, en tout cas l'expression. Et on a beaucoup à dire sur l'évolution du syndrome amoureux, si j'ose dire.
Ouais, est-ce que c'est un feu de paille ou une révélation,
voilà,
par exemple.
Beaucoup d'exemples et beaucoup d'histoires, évidemment, à la clé.
Wendy Bouchard, passionnante, dès 9h sur Europe 1 jusqu'à 11h. À suivre aussi la météo, Céline Dacosta.
Oui, avec Laurent Cabrol et puis l'essentiel de la matinale juste avant 9h. Il est 8h53. 8h55, à suivre l'essentiel de la matinale.
matinale avec vous Nicolas Saliagas. Mais tout de suite, Rénoval vous présente la météo. Profitez d'un temps toujours clément avec Rénoval, véranda et abri de piscine. La météo avec Laurent Cabrol, évidemment Nicolas.
Du soleil et des gelées.
Du soleil, de la gelée. Bah, les gelées sont présentes encore, malheureusement. Hein. Je disais tout à l'heure, elles ont du mal les températures ont du mal à grimper, mais enfin ça sert tranquillement vers 10h, 11h. Il fait encore entre moins 3 et plus 2 degrés. Voilà, en gros, c'est la fourchette du petit matin à l'heure où nous parlons. En ce qui concerne les températures maximales, de 11 à 19 degrés, ça sera presque comme hier, même un tout petit peu plus chaud. 13 degrés dans la capitale, par exemple, 14 à Poitiers, à Nantes, 15 à Nice, 16 degrés à Bordeaux, 17, 18 à Clermont-Ferrand et 18, 19 du côté du Pays Basque. C'est là qu'il fera le plus doux. Aujourd'hui, donc, du soleil pour nous tous, avec un petit peu de vent dans le Languedoc-Roussillon, vitesse des vents 50, 60, 70 km/h. Et ce type de temps va durer jusque pratiquement dimanche. Le congé de fin de semaine s'annonce vraiment printanier. Les températures sont sympathiques, très très sympas. Et lundi, mardi, mercredi, un petit peu moins souriant. Mais nous conservons, grosso modo, jusqu'à la fin du mois de février. Je pense qu'à la fin du mois de février, nous conservons ce type de temps.
Tant mieux. Merci beaucoup, Laurent Cabrol. À tout à l'heure.
Nous sommes le jeudi 14 février. On revient sur les moments forts de cette matinale, Nico Saliagas.
L'essentiel de la matinale, ce qu'il ne fallait pas rater. Fin de vol pour l'A380. Airbus annonce l'arrêt de production de son géant des airs après seulement 12 années d'existence. Le jumbo jet pouvait transporter entre 500 à 650 passagers. Un destin qui n'est pas sans rappeler celui du Concorde. Écoutez l'analyse d'Axel de Tarlet, c'était dans le journal de 7h.
C'est l'avion le plus gros du monde, c'est la fierté des Européens, très apprécié des passagers, mais très mal aimé des compagnies, parce que justement, trop gros. Aujourd'hui, la mode est aux petits avions, capables de faire des vols directs, voyez, sans escale. Donc trop gros et trop cher, 440 millions de dollars. Pour vous donner une image, un A380, c'est quasiment le prix du viaduc de Millau. Donc stop, Airbus arrête, faute de commande, dernière livraison 2021, prouesse technologique, fascination du public, mais un échec commercial.
Autre rupture à la une de l'actualité ce matin, celle d'Alain Juppé avec la ville de Bordeaux. La fin de l'histoire, titre ce matin le journal Sud-Ouest, on l'a entendu tout à l'heure avec David Abicard dans la revue de presse. Le maire de la ville depuis 12 ans quitte son fauteuil pour rejoindre le Conseil constitutionnel. Et ce, à la surprise générale, il a déjeuné hier avec le président de la République et c'est un choix qui a fait beaucoup réagir les Bordelais, comme l'a constaté notre correspondant sur place, Stéphane Place. Écoutez, c'était dans le journal de 8h.
Complètement surpris par son attitude. Moi, je pense qu'il aurait dû rester jusqu'à la fin de son mandat.
Peut-être est-ce dû un petit peu à tout ce qui s'est passé depuis les dernières semaines avec les gilets jaunes. J'ai l'impression que ça commence à l'agacer.
C'est une bonne chose parce que c'est un homme sage. C'est vrai que c'était un très bon maire. Le dynamisme de la ville qui a bien bougé depuis qu'il est là.
Alain Juppé tiendra une conférence de presse dès 11h, compte rendu à suivre dans nos éditions de la mi-journée sur Europe 1. Et puis la réforme de la fonction publique est présentée aujourd'hui à Bercy. Édouard Philippe en a dévoilé les grandes lignes il y a presque un an. Objectif, une fonction publique plus efficace qui répondrait davantage aux demandes des Français. Eh bien, ça fait beaucoup grincer les dents du côté des syndicats. Hier, 7 syndicats sur 9 ont claqué la porte après une heure de discussion. Parmi eux, Christian Grelier de FO Fonctionnaires qui appelle à la grève le 19 mars. On l'écoute, c'était dans le journal de 7h30.
On découvre qu'on s'est fait avoir depuis un an. Soyons clairs, pendant un an, on nous a fait croire qu'on allait pouvoir changer les orientations du gouvernement et ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, dans le climat social actuel, dire aux fonctionnaires qui représentent quand même 20% de l'emploi salarié de ce pays, vous n'aurez aucun coup de pouce pour le pouvoir d'achat et l'avenir de votre statut est incertain avec des risques de privatisation de mission, il ne faut pas s'étonner qu'on appelle à la grève le 19 mars. Nous, on maintient que la seule façon de contrecarrer ce gouvernement, c'est la mobilisation dans la rue.
Voilà pour l'essentiel de la matinale. Évidemment, tout le monde va vous parler de la Saint-Valentin. Certains seront heureux, d'autres moins. Il y a 14 millions de célibataires en France. Peut-être que ce sera l'occasion aujourd'hui d'y croire encore un peu plus et de regarder, de reconnaître l'autre, de tendre la main ou de faire un bout de voyage ensemble. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à partir de 6h54 lors de la passation d'antenne avec Mathieu Noël, Céline Dacosta et Eva Rock.
Il y a beaucoup d'amour dans cette passation.
On vous aime. Peace and love. Prenez soin de vous. Wendy Bouchard arrive.
Je suis là, les amis. À tout de suite. À demain, Nikos.